Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Tout de suite, le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Donald Trump fait marche arrière à Davos. Le président américain lève ses menaces militaires et douanières. Il annonce un accord avec l'OTAN sur le Groenland. Nous serons à Washington dans ce journal pour tenter d'y voir plus clair. Une femme abattue au volant de sa voiture hier soir à Nice sous les yeux de son bébé. Deux suspects sont en fuite, activement recherchés ce matin. Et l'OM qui prend l'eau au Vélodrome, battu 3-0 par Liverpool. Les Marseillais joueront leur qualification barrage de Ligue des Champions la semaine prochaine.
Donald Trump joue la carte de l'apaisement à Davos.
L'air des Alpes suisses semble avoir calmé les ardeurs du président américain. Donald Trump recule sur de nombreux points et se targue d'avoir conclu le cadre d'un futur accord sur le Groenland avec l'OTAN et l'ensemble de la région arctique.
C'est un excellent accord pour tout le monde. C'est un accord que tout le monde a saisi. Vraiment fantastique pour les États-Unis. Il répond à toutes nos attentes, notamment en matière de sécurité nationale et internationale.
Et tout est encore très flou ce matin, il reste encore beaucoup de travail, dit le chef de l'OTAN, Mark Rutte, qui précise que la souveraineté du Groenland n'a pas été abordée. À Washington ce matin pour RMC, Antoine Lard, on se demande, Antoine, ce que Donald Trump a pu obtenir pour rebrousser chemin après plusieurs semaines d'attaques et de menaces.
Écoutez, on comprend entre les lignes que grâce à cet accord, les Américains vont pouvoir renforcer leur présence militaire dans la région. Selon plusieurs médias, les États-Unis pourraient obtenir des morceaux de territoire groenlandais, quelques kilomètres carrés, sur lesquels Washington construira des bases, notamment pour déployer le Golden Dome, ce super bouclier antimissile voulu par le président Trump. Les Américains pourraient aussi avoir une sorte de droit de regard sur les ressources minières du Groenland, et ce, afin d'empêcher la Chine et la Russie de les exploiter. La Maison-Blanche, en tout cas, salue ses avancées et les talents de super négociateur de Trump. La réalité, c'est que tout cela ressemble quand même beaucoup à une porte de sortie. Alors que le président américain se trouvait face à un mur, face à la détermination des Européens, face à la dégringolade de Wall Street, et qu'au final, il a dû reculer. Fini donc les menaces militaires ou douanières, fini aussi les velléités d'annexion. Trump fait marche arrière et ce projet d'accord lui permet de ne pas perdre la face en laissant entendre que l'escalade de ces derniers jours n'était qu'un coup de bluff pour mettre la pression sur les Européens et obtenir des concessions.
Et le sujet sera sur la table d'un conseil extraordinaire des chefs d'État européens ce soir à Bruxelles.
Une première victoire pour les agriculteurs.
Les eurodéputés ont voté hier en faveur d'un recours juridique européen contre l'accord commercial avec les pays du Mercosur. Ça s'est joué à 10 voix près. Cela pourrait retarder l'application du traité à moins que la Commission européenne ne décide de l'appliquer à titre provisoire le temps de la procédure. Deux hommes activement recherchés ce matin à Nice. Ils ont fait feu sur une voiture hier soir dans un quartier résidentiel de la ville. À son bord, une femme et son bébé, la mère de famille, a été tuée. Une enquête pour assassinat est ouverte. Célestin Bougère.
Peu après 18h, la jeune femme circule sur l'avenue Henri Matisse à l'ouest de Nice. À bord de la voiture, son enfant de 6 mois. C'est à ce moment-là qu'elle est touchée par des tirs. Deux hommes sur un scooter prennent alors la fuite, selon une source policière. Malgré l'arrivée des secours, elle ne peut être réanimée. Son bébé, lui, n'a pas été touché. Il est sain et sauf. Un des habitants du quartier est tout de suite descendu sur les lieux du drame.
J'ai vu la voiture avec des impacts de balles, une femme allongée. Elle était avec son enfant, je crois, de bas âge en plus. 30 minutes après, il y avait le drap blanc sur son corps, donc c'était fini. Il y a une école à côté, il est 18h, les gens ils sortent du travail. Ça rassure pas trop, quoi.
Le scooter a été retrouvé abandonné 6 km plus loin, près de la gare de Nice, sans plaque d'immatriculation. Le maire Christian Estrosi, qui s'est rendu sur le lieu de la fusillade, a exprimé sa colère.
Je souhaite ardemment que le criminel, avec cet acte d'une barbarie inouïe, soit poursuivi et condamné avec la plus grande fermeté et sans la moindre faiblesse.
Le parquet de Nice a ouvert dès hier soir une enquête pour assassinat.
Surpopulation, insalubrité, violence, le Conseil de l'Europe s'alarme ce matin dans un rapport de l'état des prisons françaises évoquant, je cite, des entrepôts humains, citant quelques exemples, Fleury, Mérogis, Fresnes ou encore les Baumettes à Marseille. Il est 7h04, vous écoutez RMC. Marine Le Pen a plaidé la bonne foi de son parti hier au procès en appel des assistants parlementaires du FN, deuxième et dernière journée d'audition pour la chef de file des députés RN qui joue son avenir politique. Guillaume Bier, chef du service police justice RMC, vous avez suivi l'audience. Est-ce qu'il en ressort ? Ce sont de légères concessions de Marine Le Pen qui se dit toujours innocente.
Oui, et il aura fallu attendre la toute dernière question de la présidente après 7 heures d'audition hier pour que Marine Le Pen résume sa ligne de défense. Oui, elle concède que certains assistants parlementaires payés par Bruxelles ont pu travailler pour le parti de manière résiduelle. Est-ce que c'était volontaire? Je ne crois pas, dit-elle. Avait-il conscience de commettre un délit? Je suis convaincu que non, ajoute Marine Le Pen, qui conteste formellement tout système organisé pourtant mis en place par son père. Si tout ça était à refaire, on ne referait pas la même chose, conclut-elle, manière d'espérer éviter une peine d'inéligibilité. Mais durant ses auditions marathon, elle a été maintes fois mise en difficulté par les juges. Indice à l'appui. Alors à l'issue hier soir, c'est une Marine Le Pen fatiguée qui nous a confié avoir eu le sentiment d'avoir pu s'expliquer lors d'une audience normale, plus agréable selon elle que l'ambiance électrique de première instance.
Le livret A n'a plus vraiment la cote l'an dernier. Les Français ont davantage retiré d'argent qu'ils n'en ont déposé sur le livret A. C'est une première depuis 2015. Les détails à suivre dans le journal de 7h30. Après Nestlé, le groupe Lactalis rappelle à son tour des lots de lait infantile. 6 lots de la marque Picot sont concernés en France et dans 16 pays. Des boîtes de lait en poudre pouvant contenir une substance d'origine bactérienne. Et pour faire la lumière dans cette affaire qui pourrait concerner des millions d'enfants dans le monde, une plainte va être déposée par l'association Foodwatch. L'OM surclassé hier soir en Ligue des Champions, sèchement battu 3-0 au Vélodrome par Liverpool. Pas ou peu de choses à retenir de cette rencontre, si ce n'est Florent Germain, que la qualification en barrage n'est pas encore acquise.
Oui, l'OM n'a pas été à la hauteur de l'ambiance et des attentes du Vélodrome. Défaite lourde, logique et beaucoup de déception forcément chez les supporters marseillais.
Franchement, ils nous ont pas respectés. C'est pas normal qu'à chaque grand match, que l'OM ne réponde pas présent. À domicile, il n'y a personne à chaque fois.
C'est un match de prestige, c'est Liverpool. Les joueurs, ils nous offrent ce match-là. Enfin, je ressors dégoûté. Enfin, franchement, j'ai pas les mots.
L'OM a parfois donné la sensation d'être impuissant contre Liverpool, reconnaît l'Américain Timothy Weah.
On a beaucoup d'ambition dans ce club, on voulait gagner ce match, mais des fois le foot c'est comme ça, Liverpool ils étaient meilleurs, on va prendre les négatifs et les positifs et on va travailler.
Marseille a manqué son rendez-vous, mais l'OM peut encore se qualifier pour les barrages, c'est l'espoir auquel s'accroche l'entraîneur Roberto De Zerbi.
On savait qu'il serait meilleur, mais on pouvait faire mieux, on a encore Bruges qui est fort, expérimenté. Si on nous avait dit en début de saison qu'on pourrait jouer la qualification avec 9 points, on aurait été content.
En attendant le match décisif à Bruges mercredi prochain, l'OM retrouve le Vélodrome dès samedi pour affronter Lens, leader de Ligue 1.
À suivre, ce soir, la 7e et avant-dernière journée d'Europa League. Lyon tentera de garder la tête en déplacement sur la pelouse du club suisse des Young Boys Berne, 18h45 sur RMC. On suivra aussi Lille et Nice. Autre rendez-vous 20h30 sur RMC, toujours le premier match du tour principal de l'Euro de Hand pour les Bleus opposés au Danemark. Et puis Thibaut Flamand, absent du 15 de France pour affronter l'Irlande le 5 février prochain en ouverture du tournoi des 6 nations. Il va accompagner sa femme atteinte d'endométriose dans son parcours de PMA.
C'était le journal de Thibaut Texer, 7h07 sur RMC. Vous êtes nombreux à réagir à cette question de travailler ou non le 1er mai. Pourquoi on en débat aujourd'hui? Eh bien parce que les députés eux-mêmes en débattent cet après-midi un projet de loi pour officiellement encadrer ce travail du 1er mai pour les boulangers, les bouchers, les fleuristes, la restauration. Vous vouliez réagir, Marcel, bonjour.
Oui, bonjour.
Comment oui, ça va, réagir. Marcel? Vous êtes agent de sécurité à Fécamp, en Seine-Maritime. Vous bossez le 1er mai, vous?
Régulièrement, pas à chaque fois, ça dépend du roulement, mais je fais de la sécurité, je vous avais eu une fois depuis 98, et avant je travaillais au sein de la RATP, donc voilà, les jours fériés, les 1er mai, c'est quelque chose de banal, donc travailler les 1er mai, les autres jours fériés, ça permet justement, à l'époque, on pouvait se déplacer en semaine pour faire des papiers, etc. Ouais. Et là, ça permet de...
En fait, le côté horaire décalé, jour décalé, vous paraissez... Enfin, vous y trouviez votre compte, quoi.
Ah oui, oui, faire les courses le matin plutôt que quand il y a plein de monde le soir, c'est quand même pratique.
Ouais, et c'est vrai que c'est cette... Vous vous dites, il faut pas sacraliser le 1er mai, il faut laisser la liberté à chacun de bosser ou de pas bosser.
Ah, tout à fait. Alors faire du syndicalisme, être syndicat, il y a aucun souci. Après, si les syndicats voient que les gens veulent travailler 1er mai, faut pas aller contre ça non plus. Faut être ouvert d'esprit, comme on dit.
Ouvert d'esprit, c'est toute la question. On verra s'ils le sont vraiment aujourd'hui, parce qu'en effet, il y a une sorte de côté sacré autour du 1er mai. C'est en tout cas ce que disent les syndicats qui, pour la plupart, en tout cas la CGT notamment, refusent cette loi. On verra qui obtient gain de cause aujourd'hui. Il y a pour l'instant que LFI, me semble-t-il, qui a vraiment dit qu'il voterait contre, sachant que ce sera encadré, c'est-à-dire que le salarié qui ne souhaite pas travailler ne sera pas forcé, semble-t-il. Alors c'est toute la question, c'est est-ce qu'il y a une pression, est-ce qu'il y aura une pression sur les salariés d'ailleurs. Oui, ça fait partie des messages, Mathieu.
Oui, ça fait partie du débat. Myriam nous dit aller travailler le 1er mai avec le volontariat. Après, ça fera comme pour le travail le dimanche. On verra que le volontariat, il a pas duré très très longtemps et on peut être contraint à respecter ce qu'ont fait les anciens. Bientôt, ils vont nous enlever les congés payés, nous dit Myriam.
On en débat parce que vous le voyez, le débat est vif. Marcel qui dit il faut laisser les gens bosser. D'autres qui disent bah non, en fait, il faut sacraliser un certain nombre de points. Je précise quand même que le 1er mai, à la différence des autres jours fériés, si on travaille le 1er mai, on est payé double, et ça, quel que soit le domaine dans lequel on travaille. Merci Marcel. Comme Marcel, vous connaissez le chemin. Le 32-16, il est 7h10 et c'est un témoignage exclusif RMC particulièrement fort que l'on va vous faire écouter dans un instant. Celui d'un père de famille. Son petit garçon a été violé par son babysitter, c'était il y a 6 ans. L'homme a été condamné, mais il est soupçonné d'avoir récidivé. Bonjour Pierre Bazin.
Bonjour
Apolline. Vous êtes journaliste au service police-justice d'RMC. C'est vous qui avez rencontré ce papa en colère. Il veut que la société protège davantage les enfants. On savait pour ce babysitter et on n'a pas protégé. C'est son parti pris dans un instant à votre micro et vous nous le dites. Il est 7h10.
RMC jusqu'à 9h.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h14 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Le parti pris ce matin, c'est la colère d'un père. Bonjour Pierre Bazin. Pierre, vous
Bonjour
êtes journaliste au service police-justice d'RMC. Vous êtes en direct de Nice où vous avez rencontré hier soir en exclusivité pour RMC Alexandre. Alexandre, ce père de famille. Il y a 6 ans, son fils a été violé par son babysitter. L'homme a été condamné en 2020. Il avait été condamné et il ne devait plus entrer en contact avec des enfants. Pourtant, il est aujourd'hui suspecté d'avoir fait de nouvelles victimes dans le Nord.
Oui, il y a quelques jours, Alexandre reçoit un appel de son avocate, le babysitter, l'homme qui a violé son fils en 2019, alors que l'enfant était âgé de 2 ans et demi. Eh bien, cet homme est suspecté de nouveaux faits de vol, de viol. Il vient d'ailleurs d'être incarcéré pour cette raison. Après avoir été condamné à 5 ans de prison, il aurait donc recommencé sur d'autres enfants, mais cette fois-ci dans le nord de la France.
Quand on apprend cette nouvelle-là, bah c'est un coup de tonnerre. C'est un coup de massue sur la tête et une immense colère. Une immense colère. Comment c'est possible qu'on protège si mal nos enfants? Il est censé être sous suivi psychologique, suivi judiciaire, il a été soigné, médicamenté. Il se passe rien au final. On parle de 30 familles. Potentiellement, c'est énorme. C'est révoltant de se dire que ce mec, il va se balader, il peut s'inscrire sur un site. Il aurait pu continuer comme ça pendant combien de temps? À opérer sur des tout petits qui parlent pas, qui l'enferment dans ses griffes, c'est horrible.
Pierre, comment ce papa s'est rendu compte qu'il y avait un problème avec le babysitter ?
Eh bien, un soir de 2019, Alexandre douche son fils, mais sous cette douche et avec ses mots de petit garçon, son fils lui fait une confession.
Il nous a dit que ce babysitter, qui s'appelle Camille, avait mis son zizi dans sa bouche. Que stupeur, tremblement, c'est un gros coup de marteau sur la tête. Et heureusement, on a rapidement été entendu à la police. Et dès le lendemain, il était arrêté puisqu'il partait travailler dans une crèche de luxe en Suisse 2 jours plus tard. Donc il y avait urgence.
Vous lui aviez accordé votre confiance ?
Les enfants l'adoraient, en fait. Il était super, il était sympa, il comprenait, il était rigolo. C'était l'agneau. Avec l'enquête, on découvre le récit aussi de ce qui s'est passé plus précisément. Ça fait froid dans le dos. On découvre son témoignage où il parle même de zoophilie, enfin de trucs vraiment déroutants et dégueulasses. On imagine toutes les horreurs qui ont pu arriver. Il faut faire quelque chose, il faut pousser l'enquête.
Et aujourd'hui, ce père de famille, on l'a entendu, il est particulièrement en colère, Pierre.
Oui, Alexandre nous avoue avoir des envies de vengeance encore aujourd'hui contre cet homme, alors qu'il a toujours choisi de faire confiance à la justice. Mais ce qu'il dit aussi, c'est qu'au moment où le tribunal condamne le babysitter à 5 ans de prison et une interdiction d'exercer un métier avec des mineurs, Alexandre pressent qu'un jour, eh bien, ce babysitter pourrait recommencer.
Le fantôme plane. On sait qu'un jour, on ne sait pas si nous on va être prévenus d'ailleurs, mais on sait. On sait que la sanction qui n'est pas adaptée et le suivi qui n'est pas adapté. Enfin, c'est délirant de savoir qu'on lâche des malades sexuels dans notre société et qu'ils peuvent s'installer à côté de chez nous et qu'on n'en saura rien et qu'on laisse nos enfants jouer dans le jardin. Comment ça se fait que des parents puissent faire confiance à des sites internet qui disent « Ok, on vous trouve des babysitters sans autre vérification ». Pourquoi ces sites internet n'ont pas les moyens eux-mêmes de vérifier non plus les profils de ces gens-là? Pourquoi il n'y a pas une liste des délinquants sexuels sur mineurs qui soit accessible au moins à certains types d'autorités ou d'organismes? Qui va prendre le sujet à bras-le-corps? C'est des sujets qui sont tabous, c'est des sujets qui dérangent. C'est une prise de conscience politique qu'il faudrait sans doute de tous bords, en fait. Comment on protège nos enfants? Pourquoi protéger les enfants, c'est pas le débat public? On est tous concernés. Et c'est parce que les enfants, ils peuvent pas crier assez fort. Si on prend pas soin de nos enfants, on prend soin de rien.
Aujourd'hui, il y a des parents dans le nord de la France qui se disent peut-être que mon enfant a donc été victime de cet homme. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez leur dire, vous qui avez déjà traversé cette épreuve?
Je suis désolé pour eux. Mais qu'il faut croire à la faculté de résilience des enfants et puis ça va aller.
Alexandre interpelle aujourd'hui les pouvoirs publics et les acteurs de la petite enfance. Il espère une prise de conscience. Il veut surtout tout faire pour empêcher que ce genre de cas ne se reproduise.
Qu'il ne se reproduise comme justement ça semble être le cas. C'est terrible, au-delà du témoignage, de voir le dysfonctionnement aussi de notre chaîne, en quelque sorte, à la fois de justice et de protection des enfants. Merci Pierre Bazin, donc journaliste police-justice d'RMC. Et merci à ce papa d'avoir donc témoigné. Alexandre, papa d'un petit garçon violé en 2019 par cet homme accusé à nouveau donc de viol dans le nord de la France. Vous êtes sur RMC, il est 7h19. Dans un instant, on va remonter l'histoire avec vous, Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Une étude révèle que plus d'un Français sur cinq ne porte pas systématiquement sa ceinture quand il est à l'arrière d'une voiture.
Oui, c'est une étude de la marque Volvo, le constructeur qui a inventé les ceintures de sécurité. Et en France, elles sont devenues obligatoires à l'avant en 1973.
Et puis Arnaud Demange va venir pirater le face-à-face dans un instant. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes, il est 7h19.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h20, vous êtes bien sur RMC et à la télé sur RMC Story. On va remonter le fil de l'histoire avec Arthur Chevalier. Arthur, d'après une étude de l'IFOP et de la marque Volvo, la ceinture de sécurité, c'est toujours pas une évidence pour tous les automobilistes.
Oui, des statistiques surprenantes, Apolline. Un Français sur cinq ne porte pas systématiquement sa ceinture quand il est à l'arrière, même si 96% d'entre eux déclarent quand même que mettre sa ceinture, c'est devenu un réflexe. Et on constate que les hommes sont beaucoup moins disciplinés que les femmes en la matière. Statistiques, en 2024, ils étaient d'ailleurs responsables de 84% des accidents mortels sur la route.
Quand est-ce qu'on a commencé à s'intéresser à la question de la sécurité routière?
Dès le début de l'automobile, tout de suite. Ces bolides à essence ont tout de suite fait peur, à tel point qu'à la fin du 19e siècle, les voitures étaient tout simplement interdites en centre-ville. Une interdiction qui n'a pas duré, puisqu'on a pris des mesures pour organiser tout ça. Dès 1893, on impose un certificat de capacité pour les véhicules à moteur, c'est l'ancêtre du permis de conduire. Quant à la vitesse, elle est limitée dès 1899, donc il y a plus d'un siècle, 20 km/h en ville, 30 km/h à la campagne. Inutile de préciser qu'à l'époque, les voitures roulaient beaucoup moins vite.
De toute façon, évidemment. Voilà. Il y avait des panneaux de signalisation, des feux rouges, des stops.
Mais oui, des panneaux de signalisation, il y en a eu tout de suite aussi. Et le premier fabricant, c'était l'entreprise Michelin. Michelin, en 1909, met à la disposition des communes des panneaux de signalisation. Alors, au début, il n'y en avait que quatre de ces panneaux. Ça annonçait un croisement, un virage, un passage à niveau ou un dodane. Quant au premier feu rouge, ça date de 1923. C'était à Paris. Il n'y avait qu'une seule couleur, le rouge. Le tricolore, ça arrivera plus tard.
Mais on l'allumait de temps en temps, parce que c'était pas rouge tout le temps. Il y avait déjà des passages piétons.
Il y en avait même il y a 2000 ans à Rome, des passages piétons à Pauline. C'était des passages surélevés qui permettaient de traverser sans se faire écraser par les chars tirés par des chevaux. Plus récemment, à l'époque de l'automobile, ça arrive en France dans les années 1920. D'abord, c'était des bandes rouges peintes au sol. Ces bandes rouges, elles sont ensuite remplacées par les fameux passages cloutés. d'où l'expression, hein, passage clouté, puisqu'ils étaient vraiment cloutés. C'était des rangées de clous plats de 10 cm de diamètre qui délimitaient les zones où traverser. Et il faut attendre les années 50 pour qu'apparaissent les passages zébrés, c'est-à-dire ceux que nous connaissons aujourd'hui.
Ah, j'adore avoir appris tout ça. Depuis quand est-ce qu'on est censé porter des ceintures de sécurité?
1973, hein, c'est la ceinture, et c'est pas un hasard, puisque l'année précédente, 1972, a été la plus meurtrière jamais enregistrée. 18 000 morts d'accidents sur la route. Pour comparer, en 2024, c'était un peu plus de 3 000. Hein. Donc en 1972, c'est la panique. On prend des mesures drastiques et parmi elles, l'obligation de la ceinture à l'avant. La ceinture, à l'origine, c'est d'ailleurs une innovation de la marque Volvo, qui est à l'origine de l'étude dont on parle ce matin. Et dans les années 70 et 80, on pose donc les bases de la sécurité routière d'aujourd'hui. Limitation de la vitesse sur l'autoroute à 130, port du casque obligatoire sur les motos, ou encore le retrait de permis immédiat en cas d'ébriété.
Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. 7h23, Arnaud Demanche.
RMC.
Demanche Pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud, dans le face à face tout à l'heure sur RMC BFM TV, je vais recevoir le patron de la BPI, la Banque Publique d'Investissement, Nicolas Dufourcq.
Bah oui, c'est un pauvre petit lapin. Il doit pas aller bien, le pauvre petit père, il doit être au bout du rouleau, il va pas s'asseoir en face de vous, au face à face, il va s'allonger direct sur la table. J'en peux plus, moi, madame de Malherbe. Mon truc à la base, c'est les investissements, mais vous avez vu le contexte actuel, c'est le bordel, qui va investir? Je sers à rien, ma mère m'avait prévenu. Vous le savez, la Banque Publique d'Investissement.
Pauvre petit Nicolas Dufourcq.
La Banque Publique d'Investissement a été créée sous François Hollande, hein, dont l'ennemi, c'était la finance. Ce qu'on a vu d'ailleurs, son ennemi, c'était aussi l'emploi, l'économie, la croissance, le travail, les régimes amincissants et la fidélité.
Oh.
Il avait tellement d'ennemis, cet homme-là. Alors, vous reviendrez ensemble sur le discours lunaire de Donald Trump à Davos. Hier, je crois que c'était le discours de Trump le plus hallucinant depuis au moins avant-hier.
Oui, c'est ça.
Une logorée interminable, c'était décousu, c'était génial. Il a confondu l'Islande et le Groenland pendant 70 minutes. L'Islande appartient au Danemark. Nous devons l'avoir. Nous sommes la plus grande économie du monde et je suis meilleur président car la Somalie a un tout petit QI. Je suis dictateur. Le monde est méchant et les éoliennes chinoises et... Oh, j'ai fait caca.
C'est... Oh non.
Horrible. Alors en ce moment, c'est la guerre des droits de douane.
Oui, reprenons les choses un peu sérieuses. L'économie.
Le mieux, ce serait même d'enfermer Donald Trump et Emmanuel Macron dans un octogone. Allez hop, clac. Et je taxe tes vins et champagne. Et ben moi, je te taxe tes GAFA. Et ben moi, je te taxe ta mère. C'est ma femme. Et je te mets 200% sur les importations de Bimbo slovène. Oh, comment je vais acheter une nouvelle Mélania? Alors voyons comment on vit cette guerre économique entre l'Europe et les USA chez nos voisins de BFM Business.
Ah oui.
Où habite le couple Edwige Chevrillon, Emmanuel Le Chiffre.
Moon, je pars à la guerre économique. Je suis appelé sous les drapeaux. Tous les économistes sont mobilisés.
Tu es armé au moins, mon beau militaire.
J'ai ma calculette, un taille-crayon, une cravate Brioni et mes mocassins à glands de combat. Et si, je ne reviens pas, tu auras le droit d'épouser Nicolas Dose.
Non, alors je préférerais Nicolas Dufourcq.
Eh oh, il est riche, en plus, il est réformé.
Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire.
Allez, rendez-vous avec le légionnaire à 8h30. Waouh, à tout à l'heure.
Le manche qu'on retrouve tout à l'heure en direct à 8h20 et à tout moment en podcast, bien sûr, sur l'application RMC. Dans un instant, la météo et le journal de 7h30. Puis juste après le journal, cette question, ouvrir les commerces le 1er mai, les députés doivent se prononcer sur cette mesure aujourd'hui. Boulangers, fleuristes, bouchers attendent effectivement cette autorisation officielle. Mais alors attention, parce qu'il faudra l'accord écrit des salariés pour travailler. Ça risque de tout compliquer, la réaction de l'hôtellerie-restauration, mais aussi vos témoignages et vos réactions au 32-16. Je vous attends si vous êtes patron ou salarié. Puis à 7h50, le ministre de l'Intérieur se dit favorable à la présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. Ça révolte notre voix de gauche sur RMC, Cécile Duflo. Rendez-vous donc à 7h50. Pour l'heure, il est 7h27. On se retrouve dans un instant. Restez bien avec nous.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le livret A n'a plus la cote. L'an dernier, les Français ont retiré plus d'argent qu'ils n'ont épargné et cela faisait 10 ans que ça n'était pas arrivé. Donald Trump, de plus en plus difficile à suivre. Le président américain a pris de court le monde entier hier soir en annonçant un possible accord sur le Groenland et l'abandon des droits de douane pour ses alliés. Et puis quand un rugbyman s'engage concrètement aux côtés des femmes atteintes d'endométriose, le deuxième ligne Thibaut Flamand se met en retrait du 15 de France pour être aux côtés de sa compagne atteinte par la maladie.
Les Français boudent le livret A.
Après plusieurs années records, la tendance s'inverse. On l'avait déjà constaté sur plusieurs mois de l'année dernière. Et le bilan annuel de la Caisse des dépôts vient de le confirmer ce matin. En 2025, les épargnants ont retiré plus d'argent qu'ils n'en ont déposé sur leur livret A. Et c'est une première depuis 2015, Romain Houg.
Oui, dans le détail, l'année dernière, les Français ont retiré 2,12 milliards de plus qu'ils n'en ont déposé sur leur livret A, qui, on le rappelle, est détenu par 57 millions d'épargnants et concentre près de 450 milliards d'euros. Mais les années fastes de la période Covid sont bel et bien derrière nous. L'attrait du livret préféré des Français a été plombé l'an dernier par les baisses successives de son taux de rémunération. En janvier dernier, c'était 3%. Aujourd'hui, il est tombé à 1,7% et ce sera seulement 1,5% dès le mois prochain. Et puis, la concurrence est rude pour le livret A. De plus en plus de Français lui préfèrent l'assurance vie qui affiche un taux de rendement bien supérieur, en moyenne de l'ordre de 2,65%. À noter quand même que ce dernier est imposé. Ça peut aller jusqu'à 30%, contrairement au livret A qui n'est pas soumis à la fiscalité.
Les précisions de Romain Houg pour RMC. Il est 7h32 et l'enquête se poursuit ce matin à Nice après la fusillade qui a éclaté en pleine rue et en plein jour hier, avenue Henri Matisse. Une femme d'une vingtaine d'années a été abattue au volant de sa voiture alors que son bébé de 6 mois se trouvait à l'arrière. Il est lui sain et sauf et tout est mis en œuvre pour retrouver les auteurs des tirs qui se sont enfuis à scooter. C'est ce que disait hier soir le procureur de Nice, Damien Martinelli.
Il y a un certain nombre d'éléments d'investigation qui sont déroulés pour essayer d'identifier le ou les personnes impliquées dans le cadre de cet assassinat. Il y a de l'exploitation de témoignages, de l'exploitation d'images de vidéoprotection. Il y a effectivement des recherches sur le véhicule. Autant d'investigations pour permettre de tirer des fils et pour identifier le ou les personnes impliquées dans ces faits.
7h33, Donald Trump a-t-il obtenu tout ce qu'il voulait? C'est toute la question ce matin, après son annonce surprise hier soir au Forum économique mondial de Davos d'un début d'accord sur le Groenland. Accord aux contours encore très flous. Il reste beaucoup de travail, selon le chef de l'OTAN, à la manœuvre. Mais ça n'a pas empêché le président américain de fanfaronner, Alfred Orange.
Quelques minutes après l'annonce de ce projet d'accord, Donald Trump s'est empressé de venir devant la presse pour se féliciter de cette issue.
C'est un très bon accord pour tout le monde, aussi bien pour notre sécurité nationale que pour notre sécurité internationale. C'est vraiment fantastique pour les États-Unis. Cet accord nous donne tout ce que nous voulions.
Un peu plus tôt, le président américain avait annoncé qu'il n'emploierait pas la force pour s'emparer du Groenland. Une délivrance pour les 37 000 habitants de l'île, comme Isaac, pêcheur à Nuuk, la capitale.
On ressent un immense soulagement qui s'exprime de plein de manières, parce qu'ici on était super inquiet avec ce qu'il aurait pu se passer, puisqu'il était question d'utiliser la force. Je suis super soulagé, mais avec Donald Trump, on ne sait jamais.
Une annonce assortie d'une autre promesse, Donald Trump renonce aussi à imposer des droits de douane pour 8 pays européens, dont la France, au 1er février. Aussi concernée, l'Italie de Giorgia Meloni a aussitôt réagi, encourageant, je cite, à favoriser le dialogue entre nations alliées.
7h34 sur RMC, le scandale des laits infantiles prend un peu plus d'ampleur ce matin avec ce nouveau rappel, cette fois du groupe Lactalis, qui concerne 6 lots de la marque Pico en France et dans 16 autres pays. Jusqu'ici, seule Nestlé était concernée, deux entreprises françaises qui ont un point commun, un même fournisseur basé en Chine. C'est lui qui serait à l'origine de la contamination selon les autorités sanitaires françaises. Un manque de transparence et de traçabilité qui inquiète beaucoup ses parents rencontrés à Bordeaux par Pierre Bourgès.
Julien donne régulièrement du lait en poudre à son fils Malo, 9 mois, mais ses rappels en série l'interrogent.
On est peut-être un petit peu démunis parce qu'on fait confiance. Si on peut plus faire confiance dans la marque qu'on utilise, ça peut nous inquiéter.
Selon les fabricants, un ingrédient d'un fournisseur pourrait être contaminé à la céréulide qui peut provoquer diarrhée et vomissement. 3 marques ont été rappelées, mais pourquoi pas d'autres, s'inquiète Léa, son bébé serré contre sa poitrine.
Ma fille qui a 2 mois, je viens de la passer sur un lait industriel d'un gros labo. Du coup, j'ai pas super confiance.
non plus. Alors qu'a priori, il n'a pas été rappelé. Je me pose la question maintenant de changer. Je pense que je vais le faire sur des plus petites marques avec des labos un peu plus indépendants où c'est mieux contrôlé. Ça me rassure, ouais.
Cette affaire, c'est celle de trop pour Quentin Guillemin, président de l'Association pour la santé des enfants, créée lors du scandale du lait contaminé de Lactalis en 2017.
On a encore des entreprises qui nous montrent qu'elles sont pas capables de contrôler les produits avant même qu'ils les utilisent et qu'ils les vendent. Pourquoi ne l'ont-ils pas su en amont? Pourquoi Lactalis le découvre aujourd'hui? C'est pas possible.
De son côté, Lactalis assure n'avoir reçu aucun signalement en lien avec les produits en question.
Une plainte a été déposée par l'association Foodwatch, notamment pour faire la lumière sur la lenteur des autorités sanitaires françaises à se saisir du sujet, sujet qui fait l'objet d'une alerte depuis 2 mois déjà sur le marché européen. Il est 7h36 et on vous en parlait hier sur RMC, la montée en puissance du sexisme radical. Voilà qui pourrait ce matin nous redonner un peu d'espoir, la prise de parole à nos confrères de l'équipe du deuxième ligne du 15 de France, Thibaut Flamand, qui s'engage sur l'endométriose, une maladie qui touche une femme sur 10 en France, dont sa compagne. Et il a décidé, pour la soutenir, de se déclarer forfait pour le prochain match des Bleus début février face à l'Irlande. Morgane Maury.
Une décision à deux, car l'endométriose est une maladie de couple, pas seulement de la femme, explique Thibaut Flamand. Marié l'été dernier, le rugbyman et sa femme ont un désir d'enfant, mais après la découverte d'un problème d'infertilité lié à l'endométriose, ils ont entamé les démarches pour avoir un enfant par procréation médicalement assistée, la PMA. Ce processus va débuter le 2 février, 3 jours avant la rencontre face à l'Irlande. Flamand veut être aux côtés de sa femme et c'est une obligation légale. Repousser la PMA entraînait plus de risques et de stress et n'était pas cohérent avec notre désir, avoue le joueur à l'équipe. Mon rôle est d'être auprès d'elle, insiste-t-il. Il ne veut pas parler de la rencontre suivante face au Pays de Galles le 15 février. On essaie de vivre ce processus comme une belle expérience, d'être le plus heureux possible, conclut-il. Le rugby peut bien attendre.
En Ligue des Champions, Marseille a été battu 3-0 hier soir par Liverpool. Prochain match décisif pour l'OM mercredi prochain face à Bruges pour espérer une qualification en 8e de finale. Et ce soir, c'est la Ligue Europa qui reprend pour le compte de la 7e journée de phase de Ligue avec 3 clubs français engagés, Lille, Lyon et Nice.
Et puis le Quintet, Élise, 13h55 sur l'Hippodrome de Vincennes.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Le favori, c'est le numéro 6, Janko Ofor. L'outsider, c'est le 13, Jibi du Fruitier.
C'était le journal d'Élise Dangean. Il est 7h38 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Permettre aux salariés de travailler le 1er mai, oui, mais alors attention à ne pas créer une usine à gaz. Voilà votre alerte ce matin. Catherine Kérard, bonjour. Vous représentez l'hôtellerie-restauration. Les députés doivent voter aujourd'hui pour une plus large ouverture des commerces le 1er mai. Sauf qu'il va falloir remplir de la paperasse, il va falloir obtenir un accord écrit précis des salariés. Et c'est ça qui vous inquiète. Il ne faut pas que ce soit une fausse bonne idée. Voilà vos craintes que vous nous donnez dans un instant et vos réactions. Vous qui nous écoutez, vous êtes peut-être salarié. Est-ce que oui, vous voudriez pouvoir travailler le 1er mai et être payé double d'ailleurs au passage? Et si vous êtes patron, commerçant, restaurateur, est-ce que ça vous paraît une fausse bonne idée ou une usine à gaz? Vous nous appelez et vous réagissez au 32-16.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h42 sur RMC et sur RMC Story. Des boulangeries, des fleuristes, des bouchers, mais aussi des restaurateurs qui pourront ouvrir tranquillement le 1er mai. Ça devrait être le cas cette année si les députés qui débattent aujourd'hui de la question votent la loi qui va officialiser l'ouverture le 1er mai. Bonjour Catherine Kérard.
Bonjour.
Vous présidez le GHR, ça représente les hôtels et la restauration. Vous suivez près ces discussions parce que vous êtes en quelque sorte entraînée, j'allais dire presque malgré vous, dans la discussion de ce texte aujourd'hui. Au départ, ce sont les boulangers qui ont alerté parce qu'il y avait cette situation un peu étrange, où à la fois ils avaient l'autorisation d'ouvrir le 1er mai, mais ils n'avaient pas l'autorisation de faire travailler leurs salariés. Pour mettre en adéquation tout ça, ils ont alerté les députés qui, aujourd'hui même, en débattront et pourraient donc officialiser l'ouverture et le fait de faire travailler ses salariés le 1er mai. Sauf que ça a été élargi à d'autres secteurs, boulanger, oui, mais aussi fleuriste, boucher et hôtellerie, restauration. Vous demandiez rien, vous?
On ne demande rien parce que nous ouvrons déjà le 1er mai puisque ce sont des dispositions conventionnelles qui sont appliquées dans notre secteur historique.
Donc, en étant entraîné dans cette loi, au fond, ça va rajouter une certaine contrainte. Pour l'instant, pour vous, quand c'est ouvert le 1er mai, les salariés travaillent. qu'ils le veuillent ou non.
Qu'ils le veuillent ou non, mais qui sont payés double, et ça fait partie, nous sommes des entreprises de l'hospitalité. Donc, un voyageur en déplacement, il peut s'héberger et se nourrir, quel que soit le jour de l'année.
Oui, vous n'allez pas tout d'un coup lui dire de repartir, le touriste, le 1er mai, pour fermer la boutique.
Exactement.
Mais avec cette loi, vous allez devoir faire signer vos salariés une sorte de décharge qu'ils s'engagent à travailler officiellement le 1er mai.
Exactement, c'est pour ça qu'on alerte l'auteur de cette loi en disant on veut amender cette loi simplement pour ne pas avoir d'insécurité juridique, pas d'aléa social et de créer un préjudice qui pourrait être pour notre secteur d'activité.
Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par exemple, même les restaurants routiers, j'allais dire, ou les restaurants qui sont au bord de l'autoroute, ou les autoroutes qui sont ouvertes le 1er mai, pourraient soudain se retrouver fermées parce que vous n'auriez pas obtenu suffisamment d'autorisation de vos salariés ?
C'est exactement cela. Et on peut le constater d'ailleurs sur certains autres jours fériés. Je pense notamment à des traiteurs événementiels qui pourraient se retrouver coincés parce qu'ils n'auraient pas les équipes suffisantes. Un exemple, un match de foot déplacé le 1er mai, c'est arrivé l'année dernière, un grand match de Ligue 1, et qui a les traiteurs événementiels qui participent pour l'animation, etc. de ce match et qui n'auraient pas les équipes, eh bien, vous vous retrouvez dans une difficulté terrible.
Donc, au fond, pour vous, c'est une fausse bonne idée.
C'est une fausse bonne idée pour le secteur de l'hôtellerie-restauration.
En revanche, c'est une bonne idée pour les boulangers. Il y a David qui est avec nous, qui est boulanger au Talus dans les Deux-Sèvres. Bonjour, David.
Bonjour Apolline, heureuse de t'entendre.
David, pour toi, pour vous, dans la boulangerie, ouvrir le 1er mai, c'est vital.
Bah, c'est important, puis il y a beaucoup de manifestations, il y a des tournois de foot, des vide-greniers, et puis en zone touristique, il y a beaucoup de monde sur les côtes, comme en Bretagne, Charente-Maritime, tout ça, il y a du monde, quoi. Alors nous empêcher de travailler. Alors ce qui est marrant, tu vois, l'année dernière, c'est que le représentant de la CGT est venu acheter du pain le 1er mai. Je lui ai dit, on fait une photo, il n'a pas voulu.
Ouais. Il n'a pas voulu assumer qu'il achetait du pain le 1er mai.
Voilà,
parce qu'en effet, la CGT est tout à fait contre cette proposition de loi donc qui sera débattue cet après-midi.
Moi, je les avertis que les présidentielles arrivent. Alors, leur vote, on va le surveiller de près, parce que nous, on est boulangers, mais il y a nos consommateurs aussi. Donc, c'est bien beau de nous faire des promesses, tout ça, de dire on va y aller, et puis et maintenant, il faut agir.
Le premier donc, moi,
j'avais interpellé Gabriel Attal quand il était venu chez moi, à la boulangerie, sur ce sujet. Il m'a dit, on va avancer, bon, on verra bien ce qu'ils vont voter, mais je les appelle à prendre conscience que derrière, il y a des familles, il y a de l'emploi, et puis nous, on a des factures à payer. Hein. La boulangerie, actuellement, elle est en grande souffrance. Donc, nous faire fermer un week-end du 1er mai, c'est inacceptable.
C'est inacceptable. Merci, David, d'avoir réagi. David, c'est la boulangerie L'Angélique, et c'est au Talus, dans les Deux-Sèvres. Je voudrais que vous réagissiez à ça, Catherine Kérard, parce qu'effectivement, au fond, ce mouvement, il vient des boulangers, mais il vous a effectivement entraîné en quelque sorte. Qu'est-ce qui pourrait changer ? C'est-à-dire, est-ce qu'il est encore possible cet après-midi que les députés modifient pour pouvoir vous permettre à vous de continuer à ouvrir tel que vous le faisiez jusqu'à présent ?
Absolument. On demande à amender le texte, de rajouter 6 mots. Sans,
lesquels ?
Sans préjudice des dispositions conventionnelles existantes.
Et ça permettrait effectivement que pour vous, vous puissiez continuer à bosser comme avant ?
Ça règle le cas, ça sécurise les boulangers et le travail volontaire pour la boulangerie. Et nous, ça nous permet de travailler puisque la convention collective le permet.
Maxime n'est pas boulanger, mais menuisier à Landerneau dans le Finistère. Bonjour Maxime.
Bonjour Apolline.
Vous bossez pas le 1er mai, vous ?
Non, je ne bosse pas. Mais bon, si de temps en temps quand même, je suis à mon compte, donc...
Il vous arrive de devoir finir quelque chose le 1er mai. Maxime, vous trouvez que c'est normal de laisser les gens travailler quand ils veulent travailler, y compris un jour aussi sacré, j'allais dire, que le 1er mai ?
Ben oui, si les gens veulent travailler, je comprends pas. On dit que le français n'est pas bosseur. Mais si les gens veulent travailler, laissez-les travailler. Il faudrait que les employés fassent un papier maintenant pour pouvoir avoir le droit de travailler. Mais c'est n'importe quoi, encore des papiers. Moi, je comprends pas. Faut laisser les gens travailler.
Laissez les gens travailler. J'entends, Maxime, qu'il y a des enfants autour de vous.
Oui, j'ai deux enfants, et ma fille de 7 mois et ma fille de 4 ans.
Eh ben, on les salue. Et Maxime, ça veut dire que vous n'êtes pas encore au boulot à 7h48. Vous n'êtes pas encore parti.
J'y cours.
On fait quoi des enfants le 1er mai, d'ailleurs, si on travaille ? C'est vrai que c'est compliqué, ça.
Bah non, on s'en occupe. Hein. On n'a pas le choix,
Exactement. Merci Maxime, en tout cas, 7h48. Merci aussi à vous, Catherine Kérard, d'avoir donc réagi. Je rappelle effectivement, puisqu'on citait à l'instant la CGT, Sophie Binet de la CGT avait réagi à cette proposition de loi. Il y a 364 autres jours pour ouvrir pour les travailleurs et les travailleuses. C'est férié, c'est chômé, c'est un acquis de la lutte. Voilà la position de la CGT qui s'oppose donc à cette proposition de loi qui sera, on le rappelle, discutée aujourd'hui même à l'Assemblée nationale par les députés. Catherine Kérard, représentante de l'hôtellerie Restauration, merci à vous. Il est 7h49 sur RMC et sur RMC Story. Dans un instant, c'est la voix de gauche, Cécile Duflo. Cécile Duflo, écoutez, hier soir sur BFM TV.
La présomption, c'est simplement quelque chose qui considérera que quand un policier aura fait usage de son arme, la légitimité de cet usage sera présumée.
Vous l'avez reconnu, c'est le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Il est favorable à une présomption de légitime défense pour les policiers et les gendarmes. Et ça vous met hors de vous, Cécile?
Je pense que c'est une catastrophe. Ça va faire beaucoup plus de morts alors qu'on est déjà record d'Europe des morts par tir policier.
Votre parti pris la voix de gauche dans un instant. Il est 7h49 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de gauche, Cécile Duflo, mais tout de suite le bonus, Mathieu.
Eh oui.
Ce soir, c'est le gala des pièces jaunes.
Et c'est en train de s'installer comme un événement chaque année, un grand concert à la Défense Arena, du grand spectacle des artistes français et internationaux de renom comme Bob Sinclair que vous entendrez, mais aussi Christina Aguilera. Vous l'avez bien reconnue, icône pop des années 2000. De retour sur une scène française ce soir, c'est Teddy Riner qui animera la soirée organisée au profit de la Fondation des Hôpitaux comme pour la récolte des pièces jaunes. Mika sera aussi de la partie. Gims, Charlotte Cardin, le rappeur A$AP Rocky aussi, dont la femme Rihanna sera assise à côté de Brigitte Macron, nous dit-on. Ils devront faire mieux que l'an dernier et le 1 800 000 euros récoltés, renforcés par l'arrivée de nouvelles stars de K-pop que le paysage français découvre, comme J-Dragon ou Stray Kids.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
7h51 sur RMC et sur RMC Story à la télé. Ce matin, voix de gauche, Cécile Duflo. Bonjour Cécile. Bonjour. Une proposition de loi soutenue par les Républicains envisage une présomption de légitime défense pour les policiers et les gendarmes. C'est une mesure qui est soutenue par le gouvernement, mais pour vous, c'est une catastrophe.
Oui, c'est une catastrophe et c'est pas bon pour les policiers, mais j'y reviendrai. D'abord, une réalité, la France est en tête de l'Europe pour le nombre de morts par tir policier et ça a beaucoup augmenté ces dernières années. Alors que la réalité, c'est que les policiers qui tirent et qui tuent des personnes sont très peu condamnés. De fait, l'appréciation juridique, elle est très très extensive déjà aujourd'hui, donc il y a pas besoin de cette loi. En revanche, elle va avoir des effets négatifs.
Quel serait le risque majeur pour vous de cette loi?
Le risque majeur, il est très clair, ça va augmenter les blessés et les tuer. Parce que, en fait, quand vous avez ce type de disposition juridique, ça produit un gros relâchement dans l'attitude et dans les décisions des policiers. C'est un effet psychologique. Il y a une forme d'assouplissement légal qui réduit la perception du risque pénal pour les policiers, du coup qui favorise le tir. Et puis, il y a un déplacement des normes. Et même si, et on a entendu hier soir, effectivement, le ministre de l'Intérieur insister, c'est une présomption, etc. Ça ne change pas les règles d'engagement. De fait, ça change les règles d'engagement. C'est-à-dire que les policiers tirent plus facilement en pensant que ce qui est autorisé et plus large.
Mais vous avez des chiffres pour affirmer ça?
Oui, et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'avant on aurait pu dire que c'était un a priori, mais depuis la loi de 2017, il y a un chercheur qui a fait une étude scientifique, mais vraiment comme une étude médicale, pour une raison très simple, la loi s'applique pour les policiers, mais pas pour les gendarmes. Donc il y a eu autant de refus d'obtempérer en zone police, 13 000, qu'en zone gendarmerie, 13 000. Et pourtant, en zone police, les tirs mortels, depuis 2017, ont été multipliés par 6. Donc voilà, là on a le résultat de cette loi, puisque ça s'applique qu'à la police. Et les gendarmes font tout aussi bien leur travail. Donc vraiment, c'est un énorme problème cette loi. Et je veux le dire, en aimant beaucoup la police, j'ai été accompagnée 24 heures sur 24 par un policier pendant 2 ans. Leur rôle est essentiel, et c'est justement parce que le rôle de la police dans la société est essentiel qu'il faut pas voter cette loi.
Ça se passe comment ailleurs en Europe?
Il y a un seul tir mortel en Allemagne sur 10 ans de policiers. Donc les choses se passent très différemment en Grande-Bretagne, très différemment absolument partout. La France devient une exception. Et on sait très bien que quand on relâche la pression légale sur la police, on aboutit aussi à des situations de tension qui font que les policiers, on le voit avec ICE aux États-Unis, se mettent parfois, certains d'entre eux, à faire n'importe quoi. Et y compris, l'encadrement n'est plus capable de gérer certains excès.
Pour vous, il y a un risque qui est de saper la relation entre la police et la population.
Oui, je le dis, c'est ça qui est le le plus grave en fait dans cette loi, c'est que en fait on donne quand même de fait une espèce de lassitude, d'amplitude à l'action de la police et au danger que représentent les tirs mortels, avec l'idée du coup qu'une grande partie de la population est menacée. Le droit à la vie, c'est sacré et c'est protégé dans toutes les conventions internationales, dans la Constitution, et là on déséquilibre l'équilibre précieux entre le droit à la vie et les méthodes d'intervention de la police, et ça ne protège pas les policiers, c'est l'autre chose qu'il faut dire. Les policiers aujourd'hui, ils meurent beaucoup moins en service que dans les années 80, parce que la délinquance a changé, elle se tue entre elles maintenant, et c'est une bonne chose, et je pense qu'ils peuvent bien faire le travail et qu'ils n'ont absolument pas besoin de cette loi, et que le ministre de l'Intérieur a tort de céder à la surenchère de certains syndicats qui vont fragiliser le lien police-population qui est extrêmement précieux dans une démocratie.
Merci Cécile. Cécile Duflo, la voix de gauche sur RMC. Demain, place au débat. Voix de droite, voix de gauche, ce sera comme tous les jours à 7h50. Dans un instant, le journal de 8h. Une mère de famille abattue en plein Nice hier soir. Le ou les tireurs sont d'ailleurs toujours recherchés. On sera sur place en direct dès le début de ce journal. La météo, un temps très agité dans l'ouest et près de la Méditerranée. C'est simple, il pleut presque partout. Et puis juste après le journal, on va parler économie avec Emmanuel Le Chypre qui est de retour. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Le gouvernement veut relancer le marché de l'immobilier.
Ah oui, avec un nouveau dispositif plutôt attractif.
Vous nous le racontez dans un instant. Restez bien avec nous, il est 7h56.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
7h58, vous êtes bien sur RMC et RMC Story. La pluie, presque pour tout le monde, Géraldine.
Ah oui, ça va être difficile d'y échapper. Et en plus, on parle de bonne pluie, ce qui ne va pas arranger les affaires en Bretagne, où il y a toujours cette vigilance orange pour les crues, de l'Odé, de la Laïta, du Blavé. Donc vraiment, vers l'Atlantique, ça va s'agir d'averses. Donc ça ne va pas être tout le temps, il y aura quelques petits moments d'accalmie. Mais les averses qui sont quand même assez marquées, puisqu'ils vont gagner toute la moitié ouest dans le courant de la journée, avec pas mal de vent. Dans le même temps, on a des remontées de Méditerranée, donc avec des pluies soutenues près de la Méditerranée, jusqu'au sud du massif central, avec de la neige à basse altitude, hein, dès 600 mètres sur le massif central. Et puis ces pluies qui vont se décaler légèrement vers l'est en journée, donc qui vont plutôt toucher autour de la vallée du Rhône. Dans le nord-est, ce sera un peu plus calme quand même, mais ça va rester très gris. Les températures, c'est toujours le même contraste. Dans le nord-est, il fait toujours froid. On a dégelé ce matin. Ailleurs, c'est de la douceur. Il fera 3 degrés à Strasbourg cet après-midi, 5 à Grenoble, 9 à Lille, à Lyon, 10 à Brest, 11 à Clermont-Ferrand ou Nice, 12 à Paris, à Bordeaux, Marseille, La Rochelle, Nantes, 13 à Biarritz. C'est jusqu'à 14 degrés pour Ajaccio. La suite du programme, on n'a pas fini de. Oui, mais ça reste un problème, effectivement, parce qu'on va encore parler de la pluie. Demain, ça va être une journée particulièrement agitée. Et puis pour le week-end, les températures vont bien baisser. On va retrouver pas mal de gelées et toujours beaucoup de pluie près de la Méditerranée.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
Il est 7h59, quel plaisir de vous accompagner tous les jours sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Tout de suite le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. L'effroi à Nice où une femme a été abattue au volant de sa voiture hier soir sous les yeux de son enfant par des tireurs à scooter toujours recherchés ce matin. RMC en direct de Nice dans un instant. Vous allez entendre le témoignage RMC du père de la première victime d'un baby-sitter condamné pour avoir violé un enfant il y a quelques années et qui aurait récidivé à sa sortie de prison. Et puis Conseil européen à Bruxelles. Aujourd'hui, il sera évidemment question des annonces hier, des annonces encore floues hein, de Donald Trump sur le Groenland, futur accord et finalement pas de taxes.
C'est la sidération ce matin à Nice.
Où une jeune femme a été abattue par balle hier soir au volant de sa voiture et sous les yeux de son bébé de 6 mois sur une avenue dans l'ouest de la ville par des tireurs qui circulaient à scooter et qui ont pris la fuite. Pierre Bazin, vous êtes en direct de Nice ce matin pour RMC. Les suspects sont toujours recherchés.
Oui, ce matin, une source proche du dossier nous confirme qu'aucune interpellation n'a eu lieu pour l'instant. Deux hommes sont toujours recherchés. Pourtant, jusque tard hier soir, des opérations de police menées notamment avec l'appui du RAID ont eu lieu dans la ville pour retrouver le tireur ainsi que le conducteur du scooter, les deux hommes qui ont donc ouvert le feu sur une femme de 25 ans. Il est environ 18h hier lorsqu'un deux roues se porte à la hauteur du véhicule qui roule... de la mère de famille. Le passager du scooter ouvre le feu sur la conductrice. Elle est mortellement blessée. Dans cette voiture se trouve également un bébé de 6 mois qui s'en sort indemne selon les autorités. Les deux tireurs, eux, prennent la fuite. Plus tard, le scooter qui pourrait avoir été utilisé par les deux hommes a été retrouvé sans plaque d'immatriculation. Les enquêteurs travaillent à ce stade sur plusieurs hypothèses. Si le mode opératoire ressemble à un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants, la piste du drame intrafamilial n'est pas écartée pour l'instant par les enquêteurs. En revanche, les policiers pensent à cette heure que l'équipe qui a ouvert le feu a certainement agi à la demande d'un commanditaire.
Pierre Bazin, en direct de Nice ce matin pour RMC. Ce témoignage RMC ce matin dans l'enquête sur ce baby-sitter de 36 ans placé en détention provisoire il y a une dizaine de jours à Lille parce que soupçonné de viol sur un enfant en bas âge qu'il gardait. Cet homme avait déjà été condamné en 2020 pour avoir violé un enfant de 2 ans à Nice. 6 ans après, le père de cette victime s'exprime pour la première fois ce matin sur RMC. Il ne comprend pas comment, après 5 ans de détention et une interdiction d'exercer une profession avec des mineurs, comment cet homme a pu être au contact d'une trentaine de familles. Témoignage RMC, Pierre Bazin, Martin Juré.
Oui, il y a quelques jours, lorsqu'Alexandre reçoit un appel de son avocate, elle lui explique que le babysitter qui a violé son fils en 2019 vient d'être placé en détention pour des faits similaires. Le père de famille s'effondre.
Quand on apprend cette nouvelle-là, c'est un coup de tonnerre. C'est un coup de massue sur la tête et une immense colère. Il est censé être sous suivi psychologique, suivi judiciaire, il a été soigné, médicamenté. Il se passe rien au final, on parle de 30 familles, potentiellement c'est énorme.
C'est faire à vivre un traumatisme lorsque ce soir de 2019, l'enfant d'un peu moins de 3 ans fait une confidence à ses parents avec ses mots de petit garçon.
Il nous a dit que ce babysitter qui s'appelle Camille avait mis son zizi dans sa bouche. Donc stupeur, tremblement. Avec l'enquête, on découvre le récit aussi de ce qui s'est passé plus précisément. Ça fait froid dans le dos.
Aujourd'hui, il ne comprend pas comment le babysitter de 36 ans a pu exercer au contact de mineurs malgré sa condamnation.
C'est la sanction qui n'est pas adaptée et le suivi qui n'est pas adapté. C'est délirant de savoir qu'on lâche des malades sexuels dans notre société. Pourquoi il n'y a pas une liste des délinquants sexuels sur mineurs qui soit accessible au moins à certains types d'autorités ou d'organismes? On est tous concernés.
Le père de famille veut interpeller les pouvoirs publics, lui qui se dit favorable à la castration chimique des délinquants sexuels.
Il est 8h03 sur RMC. Après Davos, les Européens vont se réunir à Bruxelles aujourd'hui.
Oui, Conseil européen. Au lendemain donc des annonces faites hier soir par Donald Trump, on se demandait ce qu'il allait dire. Et bien, il avait l'air satisfait d'annoncer un futur accord sur le Groenland. Mais sans toucher à la souveraineté de l'île, a quand même précisé dans la soirée le chef de l'OTAN, Sébastien Krebs, chef du service politique RMC en direct ce matin. Il a aussi renoncé à ces menaces de droits de douane, nouvelles taxes qui étaient censées viser les Européens, ce qui est donc une première victoire.
Oui, les Européens sont passés de la crispation face au discours fleuve de Donald Trump à Davos hier après-midi au soulagement dans la soirée. Le président américain fait redescendre d'un coup la pression d'un cran. A-t-il cédé aux menaces de mesures de rétorsion européennes? Il y a un début de recul, se réjouit ce matin le ministre français de l'économie Roland Lescure, qui dit rester toutefois vigilant. C'est bien la preuve qu'il faut se montrer ferme. La moindre faiblesse se paie, juge un ancien dirigeant européen. On voit bien que la prudence est de mise. Le Danemark, d'ailleurs, ce matin rappelle qu'il entend poursuivre un dialogue constructif, mais dans le respect de son intégrité territoriale. Et c'est tout l'enjeu parce que le contenu de l'accord n'a pas été communiqué. Et le patron de l'OTAN précise que le sujet de la souveraineté du Groenland n'a pas été évoqué. Il y a encore beaucoup de travail, prévient-il. À Berlin, le ministre allemand des Finances met en garde contre un optimisme prématuré. Prudence face aux revirements fréquents de Donald Trump. Il faut attendre un peu, dit-il, ne pas se faire trop d'illusions. Des Européens qui ont donc rendez-vous à Bruxelles ce soir pour un Conseil européen qui avait initialement été convoqué en urgence pour envisager une riposte aux menaces de Trump.
Et les Européens qui restent divisés sur la question du Mercosur. Vous savez que le Parlement européen a voté hier pour la suspension de la procédure de ratification de l'accord, le temps que la justice tranche. L'Allemagne demande quand même son application provisoire. La France, elle appelle au respect du vote. En France, il y a le département de Côte d'Or qui a l'intention d'interdire les produits en provenance d'Amérique du Sud dans les cantines de ses collèges.
Saura-t-on un jour ce qui s'est passé vraiment à Crans-Montana en Suisse la nuit du Nouvel An?
Vous vous souvenez du drame qui a fait 40 morts? Eh bien, les deux gérants français du bar incendie ont été auditionnés une deuxième fois par la justice suisse là durant cette semaine. Jacques Moretti, c'était mardi pendant 7 heures. Jessica Moretti, c'était hier pendant 11 heures. Une vingtaine d'heures donc d'audition en tout, Romain Houck pour RMC, sur les faits la nuit du drame.
Oui, une très longue audition dans laquelle Jessica Moretti est apparue très émue. Elle a souvent pleuré en évoquant les faits, au point que certains avocats de victimes, regrette de ne pas l'avoir assez entendu sur le fond de l'affaire. D'après nos confrères de BFM TV, cette audition portait notamment sur les bougies scintillantes. Elle explique avoir, avec son mari, changé de modèle pour des bougies plus petites qui durent moins longtemps pour des raisons de sécurité. Elle a également réaffirmé que les barman et serveurs n'étaient pas formés à la gestion d'un incendie, mais elle précise que les deux agents de sécurité, eux, l'étaient. Enfin, elle assure ne pas être partie avec la caisse contenant les recettes de la soirée, contrairement à ce qu'ont affirmé des médias italiens. Reste la question de la mousse isolante qui a pris feu le soir du drame. La veille, Jacques Moretti, lors de son audition, a indiqué que le vendeur lui avait assuré qu'il s'agissait de matériaux adaptés. Jacques Moretti qui pourrait bientôt sortir de prison. Les quelques 215 000 euros de sa caution ont été rassemblés. Le tribunal des mesures de contrainte devra statuer prochainement. Son épouse, Jessica Moretti, reste libre mais soumise à des mesures pour l'empêcher de quitter le territoire suisse.
Cette info de dernière minute ce matin, on parlait, souvenez-vous, du redémarrage de la plus grande centrale nucléaire du monde au Japon. Après 15 ans de fermeture, à l'arrêt depuis la catastrophe en fait de Fukushima, eh bien, on apprend ce matin que le redémarrage est suspendu. Il y a une alarme du système de surveillance qui s'est déclenchée. Tout suspendu, donc, dit ce matin l'opérateur. C'est rare, tiens, une grève dans le secteur bancaire. Les 78 000 salariés du Crédit Agricole sont appelés à débrayer aujourd'hui pour dénoncer, disent-ils, des augmentations de salaire insuffisantes selon les syndicats et contre les potentiels effets d'un plan de mutualisation de certains métiers. Tiens, c'est la première fois de la saison que les trois clubs français perdent la même semaine en Ligue des Champions. Après Paris et Monaco, hier c'est Marseille qui a été battu sèchement 3-0 par Liverpool. Ça se passait au Vélodrome et l'entraîneur marseillais Roberto De Zerbi n'était pas tendre du tout avec ses joueurs à la fin du match, notamment le gardien Geronimo Rulli et le défenseur, écoutez Benjamin Pavard.
On a mal joué, on n'a pas compris où se situait le jeu, il était beaucoup sur Pavard et on ne l'a pas compris. Et s'il l'avait compris, lui-même, on n'aurait pas perdu de ballon bête. L'attitude était là, mais quand tu joues contre Liverpool, il faut comprendre le foot, la volonté ne suffit pas.
Place à la Ligue Europa ce soir, Lyon en tête chez les Young Boys, les Suisses de Berne, sera à 18h45. Il y aura aussi Nice chez les Néerlandais de Go Ahead et Lille contre les Espagnols du Celta Vigo, ça ce sera à 21h. Et puis on rentre dans le vif du sujet, tiens, l'Euro de handball, les Bleus joueront contre le Danemark ce soir 20h30, gros match pour le début du tour principal.
C'était le journal de Quentin Vinet, il est 8h08 et c'est l'heure de parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Avec Emmanuel Le Chypre. Emmanuel, un nouveau dispositif veut redonner aux Français l'envie d'investir dans la pierre, dans l'immobilier.
Ah ça, c'est sûr que les Français, ils n'ont plus beaucoup envie d'acheter un appartement ou une maison pour louer ensuite. Ah, là, on ne parle pas de...
On parle d'investissement locatif. Là.
Voilà, exactement. Moins de 10 000 logements neufs ont été vendus aux investisseurs particuliers l'an dernier. On était à 60 000 en moyenne par an au cours des années précédentes. Alors, les explications sont nombreuses. Hein. Le prix du mètre carré qui monte, les taux d'intérêt qui augmentent, les réglementations trop contraignantes, on pense aux réglementations énergétiques, ou bien les réglementations qui changent tout le temps, les coûts qui s'envolent, c'est la taxe foncière, c'est l'encadrement des loyers, et puis la loi française qui, il faut bien le dire, surprotège les locataires, voire les squatteurs. Et puis surtout la disparition du dispositif Pinel. Il fallait donc trouver une nouvelle incitation à investir dans la pierre pour les Français. Ce sera le statut du bailleur privé qui figurera dans le budget 2026. Mais la bonne nouvelle, c'est que le ministre du Logement, Vincent Jeanbrun, a ajouté un petit peu son grain de sel pour muscler ce dispositif.
Alors ça va consister en quoi ce dispositif ? Est-ce que c'est vraiment incitatif ?
Oui, plus que la dernière version par exemple qu'avaient retenu les sénateurs, et ça c'est la bonne surprise pour les professionnels de l'immobilier. Alors ça concerne évidemment le petit propriétaire qui veut louer sur la longue durée dans le parc privé classique, hein, il ne s'agit pas de transformer ses logements en Airbnb. Donc il sera possible de déduire de ses impôts l'ensemble des charges liées au logement, la taxe foncière, les intérêts d'emprunt ou bien les frais de gestion, et c'est ça la nouveauté. Il sera aussi possible de déduire chaque année un pourcentage du prix d'achat de l'appartement ou de la maison. Ce sera entre 3,5% et 5,5% du prix du bien selon le niveau de loyer qui sera pratiqué si vous achetez dans le neuf, ou bien 3 à 4% plutôt pour un achat dans l'ancien. Alors évidemment, ce sera plafonné, mais c'est intéressant. Et à la différence de la loi Pinel, ce nouveau dispositif locatif dit Jeanbrun, puisque maintenant tous les dispositifs
ont le nom du ministre du logement,
ça ne se limite pas au logement neuf, ça concernera aussi l'ancien, ça concerne aussi, nouveauté, toute la France et plus seulement, vous savez, ce qu'on appelle les territoires tendus. Donc, c'est un dispositif plutôt avantageux.
C'est pas non plus open bar.
Non, en échange de ces avantages fiscaux, les bailleurs devront respecter plusieurs engagements en matière de travaux de rénovation, par exemple. Ils devront aussi respecter des plafonds de loyer raisonnables. En matière de rendement, parce que c'est ça qui compte hein, quand vous êtes un investisseur immobilier, on arrive sur des simulations qui donnent à peu près du 3,4% par an. On serait sur un niveau à peu près similaire à ce que rapportait la dernière version du Pinel.
Merci Emmanuel. Il est 8h11 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
À suivre dans Apolline Matin. Dans un instant, il y aura Arnaud Demanche qui va venir nous rejoindre. Notez qu'à 8h30, l'invité du face-à-face, ce sera le patron de la BPI, la Banque publique d'investissement, Nicolas Dufour. Quel avenir pour les entreprises françaises dans ce chaos mondial entre la Chine d'un côté et les États-Unis d'autre. Et puis juste après, il y aura Nicolas Canteloup et ses imitations, comme chaque matin. Face à Canteloup, c'est à 8h50 sur RMC. Pour l'heure, il est 8h11. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h14, vous êtes bien sûr à AMC avec Arnaud Demange.
Bonjour, bonjour les amis. Je vais vous raconter un truc de fou, il m'est arrivé un truc dingue hier. Vous voyez qui c'est Sydney Sweeney? L'actrice américaine qui fait la femme de ménage là en ce moment, triomphe.
Ah totale. Oui.
Elle m'a envoyé un message Insta marqué « Hello, j'adore tes vidéos, tu es trop sexy ». Elle adore ce que je fais en fait. Elle est bilingue, elle est en promo à Paris. Elle m'a proposé un spa au hammam du Ritz et là j'ai dit « Désolé Sydney, je dois regarder le discours de Donald Trump pour débriefer avec l'équipe de Apolline. Je suis professionnel, ouais, Apolline. Vous voyez, le professionnalisme dont je fais preuve.
Vous avez bien fait. Elle vous a demandé des sous aussi, parce qu'elle est hospitalisée, je crois. C'est une copine de Brad Pitt.
Ouais. Non, je pense qu'elle a été déçue et qu'elle est allée boire un coup avec Laurent Gérard pour se consoler. Mais bon, le boulot, c'est le boulot. J'ai bossé pour vous. Je suis allé regarder tout le discours de Donald Trump, 72 minutes.
Oh là là.
C'est un peu comme voir un vieux tonton sénile. Hein, morceau choisi du discours, il y a eu « Mes résultats sont meilleurs que ceux d'Abraham Lincoln. Les Islandais m'appellent Daddy. Oh yeah, Daddy, m'appelle papa. Les éoliennes chinoises sont... Oh, j'ai fait pipi. Mes chaussures, mon pantalon. J'ai bien aimé aussi, sans l'Amérique, vous parlieriez tous allemand en Suisse, où ils parlent tous allemand. Déjà. Oh, c'était Michel Sardou hier.
Si les ricains n'étaient pas là,
on n'a pas le tempo.
On est flingué au tempo. À l'ancienne.
Bref, on attendait son tube du moment, le Groenland. Le public était en délire. Groenland. Et finalement, il n'envahira pas militairement le territoire. Il peut encore changer d'avis cet après-midi ou demain ou après-demain. Enfin, ceci dit, il le veut toujours. Il a déclaré, si on ne le fait pas, la Russie va le faire et on ne peut pas avoir la Russie comme voisin. Sauf que... prenez un planisphère, la Russie et les États-Unis sont voisins. Ça touche quoi l'Alaska, à votre avis? Puis ça, si t'as pas envie de contrarier la Russie, il y a un moyen très simple qui s'appelle l'Ukraine. Alors, il a aussi dit que les États-Unis n'auraient jamais dû redonner le Groenland après la Deuxième Guerre mondiale, que, comme ils l'avaient protégé, c'était à eux. Petit conseil, ne laissez pas Donald Trump faire du babysitting, Apolline, chez vous, parce que sinon il va faire « Non, cet enfant est à moi, il le rendra jamais. Je l'ai acheté chez Epstein, il m'appartient.
Oh. » Bon, après un an de Trump, le ministère des Affaires étrangères français a créé un compte Twitter, French Response, qui publie des réponses aux provocations des Trumpistes.
Oui, puis alors c'est musclé, hein, c'est cinglant, hein, ça picote. C'est aussi pour corriger les fake news, mais... En fait, on est passé il y a un an de « Nous rappelons à notre allié et ami américain notre longue histoire commune ». Un an plus tard, c'est « Va te faire cuire le cul, vieux débris orange ». Ça a changé.
Ah ouais.
Avant, au Quai d'Orsay, ils engageaient la fine fleur de la diplomatie et de l'élégance française. Maintenant, comme ministre, on a limite Redouane Bougueraba. Vous savez, l'humoriste marseillais, là, ils vont l'envoyer au G7 qui va faire « Oh, Trump, tu es trop orange, frère. Quoi ta couleur ? Je t'assure, le boss, il n'y a rien qui va. Hein. Tu ressembles au Tupperware à Madarone quand elle a fait les pâtes bolognaises. Oh, Giorgia Meloni. Oh, le sang. Dis-moi, tu es bien roulé, ma sœur. Hein. Ton père, il n'est pas dealer de weed. Il roulait comme un bon joint. Pour une facho, tu es bonne. Raciste, hein. Chez. C'est vraiment un changement de style. Total, absolu.
Les représentants de Chine et du BHV ont été auditionnés au Sénat hier.
Oui, dans le cadre d'une commission d'enquête sur la fast fashion. C'est marrant parce que fashion et Sénat, c'est pas des mots qui vont ensemble, normalement, pile à style. Bah, ceci dit, si, j'imagine que les sénateurs sont à la pointe de la mode sur toutes les collections d'Amar, Scholl, Mephisto, Tenamène. Mais sinon, alors le Sénat a demandé à Chine des garanties de qualité et de traçabilité. Hein, on ne peut pas vendre des produits faits par des enfants chinois. Alors Chine a proposé de vendre des produits faits par des enfants français. Donc il y a un effort de fait, mais c'est pas encore ça. Et le président du BHV, Frédéric Merlin, était interrogé aussi sur l'implantation de Chine au BHV. C'est pas un énorme succès. Il y a même des villes dont les magasins ont refusé d'être associés à l'image de Chine, comme Limoges, Dijon ou Grenoble. Ce qui tombait bien parce que Chine voulait pas non plus être associé à l'image de Grenoble ou de Limoges. Ouais. Bref, Frédéric Merlin a dû s'expliquer.
Vous avez pas dit Dijon, hein, je remarque.
Oui, mais
vous avez
dit, c'est beau Dijon.
Oui.
Bref, Frédéric Merlin a dû s'expliquer sur toutes les polémiques.
Salut les papis tout mous. C'est un honneur d'être ici face aux séniles. Au Chénat.
Non, non. Alors, les vioches, je vais vous faire le topo, mais avant, je voulais vous dire, cette poupée sexuelle que vous avez apportée pour me demander des explications, celle-là, elle vient pas de chez moi. Elle est super moche et elle est beaucoup trop gonflée.
Non, monsieur Merlin, c'est Gérard Larcher, le président du Sénat. C'est pas une poupée sexuelle.
Ah oui, je me disais aussi, jamais j'aurais vendu un truc comme ça. On a une éthique, bordel. Et maintenant, je vous propose la poupée sexuelle en forme de labrador à fabriquer vous-même, une peluche de chien, une perceuse, et le tour est joué. Je vous montre.
Mais interdisez-lui d'ouvrir un commerce, ce type. C'est fou, quand même.
Ça
se vend. Allez, à demain.
À demain, ou d'ici là, à tout moment, en podcast, bien sûr. Vous êtes toujours en tournée ?
Toujours.
En France, avec un nouveau spectacle. Montpellier, Caen, hier, Versailles, Poitiers, Épinal. Je remarque qu'il n'y a pas Limoges, Dijon et Grenoble.
Dijon, il y a. Limoges et Grenoble.
Dijon, c'est pour ça qu'il l'avait épargné.
Ouais, épargné.
Et bonjour aux habitants de Grenoble
et Limoges.
Il est 8h20, vous êtes bien sur RMC. On vous donne la parole. Jérémy qui nous appelle au 3216, qui nous appelle de l'Isère. Bonjour Jérémy.
Bonjour, il faut qu'il vienne à Grenoble, ça serait sympa.
Ah voilà, ah bah.
J'ai joué trois fois à Grenoble.
Eh bien, il est déjà en chemin, je vous le dis. Jérémy, vous réagissiez à la voix de gauche ce matin, Cécile Duflot, qui était vent debout contre la proposition d'une légitime défense, a priori, des policiers et des gendarmes.
Et a priori, je me sentirais menacé, parce qu'elle a dit que la population se sentira menacée. Mmh. Bah, je ne sais pas de quelle population on parle, parce que moi, je ne me sens pas du tout menacé. Et au contraire, il faut instaurer la peur du gendarme. On n'arrête pas de le dire. Donc, à un moment donné, non, je ne me sens pas menacé.
Vous voulez restaurer la peur du gendarme, justement. Vous trouvez qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque.
Ah oui. Bah, bien sûr, regardez, règlement de compte. On a l'affaire de la pauvre dame qui s'est fait assassiner dans sa voiture à Nice.
Hier, dans sa voiture à Nice, avec l'enfant derrière dans la banquette arrière.
Donc à un moment donné, on continue comme ça ou on fait quoi? Je sais pas, moi, à un moment donné, faut l'instaurer, la peur du gendarme.
Donc vous préférez qu'on ait peur du gendarme plutôt que ce soit le gendarme qui ait peur, quoi?
Voilà, c'est ça. Et puis en plus, il faut aussi qu'il y ait la justice qui suive derrière. Mais bon, il y a tout un système à revoir en France qui ne va plus, quoi.
Vous le ressentez au quotidien, Jérémy ?
Oui. Mmh. Les comportements, moi qui roule souvent
sur la route. Vous êtes sur la route, vous êtes chauffeur ?
Oui, c'est ça. Les comportements, les mauvais comportements sur la route, et puis on voit tout de suite des gros cylindrés qui vous fait des têtes à queue, qui roulent n'importe comment sur l'autoroute. Maintenant, vous n'osez plus rien dire parce que vous savez que ça peut partir à tout moment, quoi.
Mmh. Merci Jérémy d'avoir réagi. C'est important justement d'entendre toutes les voix, la voix de gauche, la voix de droite. Ça, c'est tous les jours. Louis Sarkozy d'un côté, Cécile Duflot de l'autre. Vous aurez reconnu lequel est de droite et lequel est de gauche.
C'est facile à s'en souvenir.
Et puis évidemment vos réactions. À vous au 32-16. Il est 8h22, vous êtes bien sur RMC. Dans un instant, je serai aussi sur BFM TV avec mon invité pour le face-à-face, Nicolas Dufour, qui est le patron de la BPI. Quel avenir pour les entreprises françaises prises en tenaille, franchement, entre l'invasion chinoise, lui il parle d'un tsunami, et les folies de Donald Trump de l'autre côté. Les réponses donc de Nicolas Dufour sur RMC et BFM TV. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Nicolas Dufourcq.
Bonjour.
Merci d'être mon invité ce matin et de répondre à mes questions. Vous êtes le directeur général de BPI France, la banque publique d'investissement. Vous êtes au plus près des entreprises françaises. Vous avez également écrit ce livre, La dette sociale de la France, qui est paru chez Odile Jacob. Vous parlez d'un tsunami chinois. Vous dites même qu'il va falloir remonter des barrières douanières en Europe. Et dans le même temps, on a entendu évidemment les menaces hiératiques de Donald Trump, de l'autre. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'économie française et européenne ?
Disons que je ne suis pas encore, hein. On a fait 1% de croissance cette année, on fera 1% de croissance l'année prochaine. À la BPI, on est très satisfait du nombre de projets qu'on reçoit, hein. On n'en a jamais eu autant en réalité, hein. Donc l'économie française, elle est encore tout à fait productive, féconde. Les autres économies européennes, à part l'allemande, qui remontent quand même un peu, ça va aussi, grosso modo, mais il faut effectivement qu'on prenne conscience de la gravité des attaques dont on fait l'objet. Et donc, les rythmes de décision de la Commission européenne sur la remontée des barrières douanières ou sur l'instruction des dossiers de dumping contre les Chinois sont beaucoup trop lents, beaucoup, beaucoup trop lents. Il y a trop d'entreprises, de PME qui souffrent inutilement. Donc moi, je plaide pour que on recrute massivement à Bruxelles ceux qui vont instruire ces dossiers de dumping, qu'on écoute les plaintes et qu'on les traite. Et si on n'en est pas capable, à ce moment-là, on remonte carrément l'ensemble des barrières douanières.
C'est-à-dire qu'il faut agir. En fait, ce que vous dites, c'est qu'on n'agit pas.
On agit beaucoup, beaucoup trop lentement avec un principe de consensus qui est interminable et qui n'est pas à la portée d'un monde où tout s'est accéléré comme on l'a vu à Davos.
Alors, regardons justement ce qui se joue et ce qui va se jouer encore aujourd'hui puisque Davos, Donald Trump y est toujours au moment où on se parle. Il a eu des propos très paradoxaux. D'un côté, il dit nous voulons des alliés forts, pas affaiblis, nous voulons que l'Europe soit forte. Et de l'autre côté, il parle de la croissance économique, du commerce, de l'immigration qui devraient être des préoccupations centrales. Et puis il dit ensuite qu'il va augmenter de 200% les droits de douane. Et puis le lendemain, il dit, ah bah finalement, c'est bon, on est OK, donc il n'y aura pas de droits de douane. Mmh. Comment on fait face à ça? Comment on deal? Comment on négocie? Comment on prévoit?
Bah, d'abord, on garde son calme parce qu'il est ce qu'il est, hein. Et donc, il a une technique de discussion, de négociation qui est presque infantile. C'est de l'ordre du cri primal. Donc, on le sait maintenant, hein, et ça s'aggrave avec l'âge. La vérité, c'est que ils ont besoin de l'Europe et que le régime est lui-même pas si puissant que ça aux États-Unis, puisqu'ils ont reçu des messages extraordinairement forts de la majorité républicaine de ne pas attaquer le Groenland, sinon c'était l'impeachment immédiat. Et le peuple américain, à 85%, a fait savoir qu'il n'était pas d'accord avec cette folie.
Mais est-ce que ça veut dire que nous, on le prend trop au sérieux?
Je pense qu'il faut pas qu'on donne l'impression d'être des enfants qui sont effrayés par le père. C'est lui l'enfant. Hein, donc soyons calmes. Et le président de la République a tout à fait raison de dire que si l'enfant se met à faire absolument n'importe quoi, c'est-à-dire 200% de droits de douane sur le cognac, par exemple, hein, il est légitime de commencer à agiter l'instrument de coercition qui a été inventé en 2023 par la Commission européenne.
On surnomme le fameux bazooka.
Qui est le bazooka européen, qui permet de calmer les ennemis, quoi, hein, et en particulier de calmer l'enfant. Voilà. Et donc ça, il faut qu'on ait une très très grande force, hein, dans le poignet et dans l'avant-bras, j'ai envie de dire, pour activer cette espèce de joystick là qui est le bazooka et pour calmer l'enfant.
Et pour calmer l'enfant, vos propos sont quand même assez inouïs. Vous êtes à la tête de la BPI, vous êtes un homme très sérieux. Vous parlez de Donald Trump comme d'un enfant qui pousse un cri primal et que ça s'arrange pas avec l'âge.
Oui.
Comment on fait? Il est encore là pendant 3 ans. Comment on fait?
Bah d'abord, c'est aux Américains de faire avec ce qu'ils ont. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est pas la peine de se cacher derrière son petit doigt. Il faut regarder les choses en face. Alors, il est entouré de gens qui sont beaucoup, beaucoup plus calmes, etc., mais qui poussent un agenda qui est grosso modo le même. Donc, le nôtre, l'agenda européen, c'est un agenda de réindustrialisation, de souveraineté. Bon. La partie la plus difficile de notre agenda, c'est quand même, j'ai envie de dire, malheureusement, pas l'industrie. Parce que l'industrie, au fond, ça va demander beaucoup de capital, ça va demander beaucoup d'ingénieurs, etc. Mais non, c'est retrouver notre souveraineté digitale, qui est entièrement partie aux États-Unis. Celle-là, c'est beaucoup plus compliqué.
Comment on fait? C'est-à-dire que quand on est, comme vous, à la tête de la BPI, comment on fait pour effectivement investir? D'abord, en avez-vous les moyens? Ça, je vous poserai la question quand même dans un instant, parce que le contexte en France n'est pas tout à fait favorable à l'investissement. Mais comment on fait pour retrouver cette souveraineté? Et est-ce qu'il en est encore temps? Est-ce qu'on peut encore le faire?
Alors, il faut être raisonnable dans l'objectif, hein. C'est-à-dire que il y a des éléments qui ont été perdus depuis grosso modo 2006-2007. Je pense en particulier au cloud. Hein. Mmh. On aurait pu à l'époque, hein, et malheureusement les grands groupes européens qui étaient en position de développer des clouds européens ne l'ont pas fait. Maintenant c'est fait. Hein. Alors on essaie de repositionner des clouds souverains avec l'aide de la technologie américaine. Mais il y a quantité d'autres verticales du digital là, qui sont des verticales de software dans lesquelles nous avons des acteurs européens qu'il faut choisir. Donc il est très clair que les grandes entreprises européennes, mettons, vous avez le CAC 40 en France et vous avez, disons, le CAC 400 en Europe, hein, c'est que ces 400 grandes entreprises européennes doivent utiliser du software européen. Préférence nationale.
Une sorte de patriotisme,
oui,
économique.
Indispensable.
Vous invitez au patriotisme économique.
Indispensable. Le choix des technologies digitales américaines, par défaut, c'est trop facile. Ça doit cesser.
Mais concrètement, on a tous nos téléphones qui sont des téléphones américains. On a Microsoft pour la plupart d'entre nous. Oui. On a, enfin, objectivement, oui, chacun vous désormais est dépendant.
Oui, dépendant.
On a tous des adresses mail Gmail.
Oui, dépendant jusqu'à une certaine limite. C'est-à-dire que typiquement la suite Office 365. Hein,
Donc soyons très concrets. C'est quand même quasiment toutes les entreprises.
Oui, mais elle est parfaitement remplaçable par un software. C'est pas très compliqué avec l'intelligence
Donc
artificielle.
Donc vous invitez les entreprises
et vous avez
françaises
et vous avez
à se passer d'Office 360 et à prendre d'autres systèmes.
Absolument. La révolution technologique, en fait, c'est un ouragan permanent. Et vous avez aujourd'hui des sociétés européennes, en particulier françaises, qui sont capables de vous proposer une suite de qualité identique.
C'est plus cher, c'est moins cher.
Ou même meilleur, beaucoup moins cher, puisque la prédation tarifaire de Microsoft sur Office 365, elle est bien connue, elle est considérable. Donc tout ça va devenir possible. Pour moi, c'est ça le grand front vis-à-vis des États-Unis. Hein. C'est pas tellement la manufacture, parce que bon,
Mais est-ce que vous dites pas ça un peu comme si, au fond, vous actiez que de toute façon, l'industrie, on n'en fait plus?
Non, on en fait 10% du PIB. Mais le tourisme, c'est 8% du PIB, voyez-vous. Hein, les industries culturelles et créatives, ce qu'on appelle la French Touch, c'est 5% du PIB, voilà les proportions. Donc 10% du PIB français, c'est quand même beaucoup. Ça reste 17-18% en Allemagne, 17% au Danemark. Bon, mais donc ça, il faut absolument que ça continue, il faut plus que ça baisse. Hein. Mais est-ce que ça va remonter à 15%, ce que Trump propose à ses Américains? Non, c'est pas possible, ça viendra pas.
Et ça n'est pas vraiment souhaitable?
C'est souhaitable, mais c'est extraordinairement difficile.
Donc soyons réalistes aussi sur la question quand même de l'offensive chinoise.
Oui.
C'est-à-dire qu'on regarde évidemment du côté des États-Unis en ce moment parce qu'il y a ce bruit, en quelque sorte, cette saturation de l'espace du côté de Donald Trump. Mais pendant ce temps-là, il ne faut pas qu'on détourne les yeux de ce qui se passe du côté de la Chine. Une véritable déferlante de produits chinois. Oui. Mes confrères de Marianne, par exemple, ont fait l'enquête sur cette augmentation considérable ces toutes dernières semaines de produits chinois qui arrivent en Europe et en France.
Oui.
Est-ce qu'on a pris la mesure de cette menace-là et laquelle des deux menaces est la plus importante à vos yeux aujourd'hui?
Non, mais moi je me suis beaucoup exprimé sur le fait qu'on était en risque de double vassalisation avec deux empires qui nous parlent mal. L'empire chinois qui nous parle très mal sur l'industrie et dès qu'on commence à lever le petit doigt en expliquant qu'on aimerait bien retrouver un peu de souveraineté qui s'énerve et qui s'énerve durement hein, en stoppant les livraisons de métaux critiques en particulier et puis la vassalisation digitale vis-à-vis des Américains. Donc ça c'est la réalité et il faut qu'on lutte contre ça, hein, et de manière déterminée.
Mais comment?
Vous avez même dit
à un moment, vous avez eu cette expression, vous avez dit le tsunami chinois, qui si on ne fait rien, détruira toutes nos entreprises, en gros, de la Pologne jusqu'au bout de la Bretagne, et il faut se refermer, se réarmer, le temps de se réarmer. Est-ce qu'on le fait, et comment le faire?
Il faut construire le consensus de au moins deux tiers des pays européens pour remonter les barrières. Voilà. Typiquement dans l'automobile électrique, on a réussi à obtenir des barrières douanières qui ont été transformées en prix minimum il y a 15 jours là maintenant. Je considère que les mesures qui ont été appliquées sont beaucoup trop faibles en réalité, hein, puisqu'on sait que les voitures chinoises sont fabriquées de manière à ce que les prix soient structurellement de 40% inférieurs aux prix européens. Donc ça va pas le faire. Il faut qu'on remonte beaucoup plus haut. Ces entreprises ont été très largement subventionnées. On ne peut pas l'accepter. C'est la question de.
C'est ce que vous appelez ce dumping, c'est-à-dire qu'en fait c'est une distorsion de concurrence dans la mesure où elles sont dopées par l'État chinois.
Ce que les inventeurs du libre-échange des années 2000 n'ont pas vu, n'ont pas anticipé, et donc ça n'était pas dans les actes constitutifs de l'OMC, c'était la politique de subvention massive de la Chine. La Chine fait 1000 milliards d'euros par an d'excédents commerciaux qui sont quasiment entièrement réinjectés en subventions dans les boîtes. Ça, c'était pas prévu. Et c'est pas bien. Et c'est en quoi, d'ailleurs, quand vous écoutez Lutnik hier
pardon,
à Davos.
Pourquoi c'est pas pareil?
Hein?
C'est-à-dire, pourquoi on s'est fait avoir comme ça? Pourquoi eux le font et nous non?
On n'a pas voulu voir qu'ils le faisaient de manière systématiquement. On a gagné beaucoup, beaucoup d'argent avec la Chine. Il faut regarder ça aussi. Hein. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que les Allemands ont une dette de 50% du PIB et nous, 120. C'est parce que ils ont fait un commerce extérieur monstrueux avec la Chine qui leur apportait des centaines de milliards d'euros d'excédents tous les ans, hein, avec lesquels ils ont pu rembourser leurs dettes. Donc les Allemands n'ont jamais été favorables à une politique dure vis-à-vis de la Chine puisque ils s'enrichissaient de la Chine. C'était pas le cas de la France, hein, et c'était pas le cas de l'Italie, un petit peu quand même, mais pas du tout le cas des autres pays du Sud. Donc on y a trouvé un intérêt. Mais maintenant c'est terminé puisque les Allemands sont déficitaires avec la Chine. Donc cette période légendaire est finie.
c'est fini, le monde est en train de changer et on doit se réarmer. C'est ce que vous nous dites, Nicolas Dufourcq, vous qui êtes à la tête de la BPI. Vous dites il faut un patriotisme économique, y compris de la part de nos patrons ici en France, qui doivent privilégier des systèmes français plutôt que des systèmes notamment américains. Mais j'ai envie de vous dire, honnêtement, que fait la France pour eux? C'est-à-dire ce patriotisme économique, c'est bien sympathique, mais dans le même temps, il y a un budget qui est en train d'être adopté au forceps, qui clairement ne met pas les entreprises dans de très bonnes conditions. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de paradoxe, c'est-à-dire on a besoin des entreprises, on a besoin des patrons français, et en même temps, franchement, les traiter si mal?
Bah, écoutez, vous avez complètement raison. Hein. Le budget qui va passer là maintenant n'est que le énième épisode d'une série qui a commencé il y a maintenant 50 ans, qui est une série dans laquelle l'État-providence galope devant l'économie. À toute berzingue, espèce de chevauchée fantastique, et l'économie a beau se battre les flancs pour produire, faire des belles entreprises, des beaux entrepreneurs, etc., les dépenses sociales courent toujours devant. Hein. Et donc, en fait, toute notre machine institutionnelle, républicaine, démocratique est construite pour la fuite en avant de l'État-providence. Et ça continue. Et ça continue, hein, en dépit du fait que les chiffres sont catastrophiques. Et en plus, bizarrement, ça ne rapporte rien électoralement à ceux qui votent ces dispositions-là. Hein, parce que les Français oublient tout de suite ce qu'on leur a donné, et oublient surtout qui les leur a donné. Et donc, c'est parti pour continuer cette affaire.
Vous espériez qu'ils auraient plus de courage, c'est-à-dire sur la question de l'équilibre global. D'ailleurs, c'est pas une question de droite-gauche.
Oui.
C'est une question simplement aussi, à un moment, de savoir si ça passe.
Oui.
Et là, mais, ça ne passe pas.
Bah, c'est-à-dire que ce budget, ok, on parle de 5% du PIB. Mais 5%, c'est combien de déficit par rapport au total des dépenses? Hein, c'est beaucoup plus que 10%. Donc, ça veut dire que 10% de toutes nos dépenses, donc ça veut dire que 10% de nos dépenses sociales sont financées et vont continuer d'être financées par de la dette. Ça veut dire que ce qu'on a décidé, c'est-à-dire la prime d'activité, 50 euros de plus, c'est-à-dire 2 milliards d'euros par an, bah, c'est de la dette. Ça veut dire que le repas à 1 euro pour les étudiants, c'est de la dette. Et c'est à nouveau nos petits-enfants qui vont payer. Et on n'a pas voté la dette, là. On a voté un budget avec 5%. Et ensuite, on fait les calculs, on dit, mais attendez, ça va coûter combien en dette? Ben, ça va coûter 150 milliards de dettes de plus en 2026. Et puis, ça va continuer. Donc, je pense que le système, il est maintenant absolument clair, établi, que notre système constitutionnel, démocratique, républicain, n'est pas capable d'inventer par lui-même la règle de discipline budgétaire qui va faire atterrir la croissance des dépenses sociales françaises.
C'est très grave ce que vous dites, parce que, au fond, vous ne faites plus confiance aux politiques. Parce que le système est comme ça désormais, avoir ce sens des responsabilités en quelque sorte.
En fait, je dirais pas ça, c'est pas mes mots, parce que j'ai beaucoup de respect pour eux. Chacun évolue dans un champ de contraintes. Leur champ de contraintes enfin, c'est un Larsen permanent, hein. Et c'est vrai que la demande sociale est considérable, et le conflit politique, il est ce qu'il est, etc. Mais ce que je remarque, en fait, hein, c'est que les pays européens qui ont réussi à discipliner la croissance de leurs dépenses sociales ont juste décidé de s'imposer une règle d'or, qui est que le déficit budgétaire
contraignante,
quasi constitutionnelle ou même constitutionnelle, c'est le Portugal dans lequel vous ne pouvez pas avoir de déficit budgétaire supérieur à 0,5% du PIB, c'est l'Allemagne où vous ne pouvez pas avoir de déficit budgétaire supérieur à 0,35% du PIB. En Italie, ils ont tellement souffert de leur dérapage budgétaire qu'ils sont devenus hyper disciplinés. Danemark, Suède, Hollande, ils sont hyper disciplinés, ils ont une dette de 30%, nous 120% du PIB, hein. Donc il faut regarder ce qu'ils ont
l'exemple
fait,
parce
qu'ils ont
eu les Portugal avec effectivement un pays qui aujourd'hui a renoué avec la croissance, l'espoir, et qui est même vu par certains comme un modèle. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que, en effet, vous parliez de ces fameux 5%, officiellement ils seront tenus, mais en effet ça ne va pas réduire la dette, donc ça va continuer à nous coûter, les intérêts vont continuer à grossir. Est-ce que on aura les moyens d'investir malgré tout dans l'avenir?
Ben, la preuve que non, c'est que ce qui est prévu dans cette copie budgétaire, c'est de réduire significativement le budget de France 2030.
France 2030, qui est donc effectivement normalement ce qui doit accompagner les entreprises. Vous alertez là-dessus?
Ben, oui,
on est en train de sacrifier notre futur.
Je constate, si vous voulez, c'est l'équation naturelle à laquelle on est confronté aujourd'hui.
Les entreprises, non, je vous sens. Vous avez toujours ce petit côté avec un recul, mais là ce matin, je vous sens quand même plus découragé que d'habitude.
Décourager, non, parce que encore une fois, les entrepreneurs ont des ressources d'énergie intérieure, de volonté, de culot extraordinaire. Donc, ils ont fait la preuve encore une fois en 2025 qu'ils étaient capables de sortir une économie à 1% de croissance.
Mais vous pensez que ça va tenir?
Oui,
ça,
je pense qu'on va. Vous voyez, en 2026, la BPI, on a un budget en croissance. Hein, mais c'est plutôt à très long terme que j'alerte sur le fait que si on prend pas conscience du fait que notre machine est devenue folle en fait, hein, sur la chevauchée de nos dépenses de retraite, de santé, de minima sociaux et de politique de l'emploi, en fait tout ce qui fait nos prestations sociales, hein, dont bénéficient, vous savez, vous avez 42% des Français adultes dont la majorité des revenus sont des revenus de transfert, de distribution, de redistribution, de solidarité. 42%. Si vous ajoutez les fonctionnaires, ça fait 52% des Français adultes dont les revenus sont des revenus de redistribution. 52%. Hein. Et donc, on doit partir de là pour comprendre comment construire la France du futur.
Nicolas Dufour, qu'on l'apprend à l'instant, la Société Générale annonce qu'elle va présenter un projet de réorganisation qui prévoit la suppression de 1800 postes en France. Est-ce qu'il faut prendre cette alerte au sérieux sur l'emploi et sur le secteur bancaire?
Je ne suis pas sûr, honnêtement.
Ce n'est pas une surprise à vos yeux?
Non, c'est pas une surprise. C'est-à-dire que toutes ces banques avaient quand même énormément recruté à une époque, était une époque où il fallait construire des réseaux ultra capillaires dans le pays avant la digitalisation. Maintenant, la digitalisation a pris une telle ampleur que je peux comprendre qu'il y ait moins besoin de personnes physiques, honnêtement.
Il y a un autre chiffre qui inquiète, mais dont vous allez peut-être nous dire qu'il faut le relativiser, c'est le nombre de faillites d'entreprises.
Oui.
Est-ce que c'est aussi un signal? Il a considérablement augmenté cette année.
Oui.
Des faillites d'entreprises, y compris volontaires, c'est-à-dire ce ne sont pas des entreprises qui font faillite, mais ce sont des patrons qui lâchent l'affaire, en quelque sorte.
Ouais.
Est-ce que ce signal-là vous inquiète, ou est-ce qu'au contraire, vous dites, comme pour la Société Générale, qu'il faut relativiser?
Bon, on était à 60 000 faillites dans les années 2013, 14, 15, 16, 17, 18 avant les Gilets jaunes. Et on est aujourd'hui à 68 000 en étant passé entre temps à 40 000. Donc, pour l'instant, je suis pas encore inquiet. Ce qui compte, c'est de regarder le coût du risque des banques. C'est-à-dire, est-ce que les entreprises font défaut et honnêtement, ils restent extrêmement faibles. Donc, l'économie française est plutôt saine. Mais c'est vrai que y a des tout petits entrepreneurs, du petit commerce, des auto-entrepreneurs. C'est vraiment les microstructures qui font faillite. Hein. Il y a évidemment, par ailleurs, qui font la une de la presse, un certain nombre de PME industrielles qui tombent. Hein. Mais bon, ça, c'est à nouveau le renouvellement, je dirais, plastique, constant de l'industrie française. Donc, pour l'instant, clairement, ma réponse à votre question, c'est je suis pas très inquiet.
Vous êtes pas très inquiet, vous êtes juste vigilant aussi sur les décisions qu'on prend, et vous alertez aussi sur cette question aussi des tarifs douaniers et de la plasticité de l'Europe, de sa capacité à réagir. Oui. Merci Nicolas Dufourc, directeur général de la BPI France, donc la Banque publique d'investissement, et votre dernier livre, La dette sociale de la France, c'est chez Odile Jacob. Il est 8h47, si vous êtes bien sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Nicolas Dufourc, lui, directeur général de BPI France, était mon invité ce matin dans le face-à-face. On est évidemment revenu sur le discours de Donald Trump à Davos et puis sur celui d'Emmanuel Macron.
Hey! Bonjour à tous et à toutes. Ça va? Je vous impressionne.
C'est très impressionnant.
Oui, ben écoutez, j'y vois mal, alors je me relève. Non, ça vous impressionne pas trop avec mes lunettes de badass comme ça et mon charisme de biker tatoué?
C'est vrai que c'est très impressionnant.
Attention, je crois qu'il y a Élise Dangean qui est en train de s'évanouir.
Ah, elle est amoureuse.
Madame de Malherbe, chère Apolline, vous voulez toucher mes pectoraux?
Ça va aller, ça va aller.
Attention, parce que l'acier, c'est froid.
Ah oui. Monsieur le Président, vous étiez donc du côté de Davos pour le Forum économique mondial. Le contexte, c'était très tendu. Comment ça se passe avec Donald Trump?
Mais écoutez, il passe son temps à me chambrer, me demander de le rejoindre dans son conseil de la paix. Mais vous iriez-vous dans un conseil de la paix quand la paix est assurée par Trump, par Poutine, Orban et Javier Milei, hein? Franchement, mais non, c'est un peu comme aller dans une jardinerie Michel Fourniret ou dans une crèche Véronique Courgeot. Je dis non, merci.
C'est un nom définitif?
Pardon ?
Définitif, vous allez vraiment dire...
Oui, parce que Donald, en plus, réclame $1 milliard pour rentrer dans son conseil à la noix. Non, vous avez vu, en plus, l'état de burn-out dans lequel est mon le cornu. Non. Si je lui demande $1 milliard de plus dans le budget, non, là, il va s'immoler les sourcils et il va se pendre avec les manches de son pull mou. Non.
Merci, monsieur le président. Ce matin, Stéphane Bern est avec nous pour les titres de l'actualité.
Oh oui ! Oh bonjour, mon Apolline ! Bonjour, ma reine ! Reine des neiges ! Dites donc, avec toutes ces émotions internationales, ces menaces d'annexion de territoire, ces rhétoriques guerrières entre grandes puissances, vous savez quoi ? Je suis tout émoustillé à l'idée qu'on pourra avoir un nouveau conflit mondial. Parce que oui, c'est vrai que, pour tout vous dire, je commence à avoir fait le tour de tous les grands thèmes dans Secret d'Histoire. Donc, il est grand temps que je puisse avoir de nouveaux sujets à traiter. Donc, vive la guerre !
Allez, c'est parti pour les titres.
Économie. Après nous avoir menacé, Donald Trump retire ses droits de douane de 200% sur nos vins et autres champagnes. Mais moi, je dis, restons vigilants. Préparons-nous quand même à mettre en place un embargo sur les exportations des États-Unis d'auto-bronzant orange, de fond de teint, je ne sais pas, de terre battue de Roland-Garros. Oui. Enfin, tout ce qui est orange et qui peut vraiment déstabiliser Donald. Et puis, stylisme. Oh, c'est triste. On a appris la disparition, vous savez, de Valentino. Valentino qui serait mort d'une crise cardiaque après avoir vu Sébastien Le Cornu porter un pull ras du cou sous une veste de costume. Ainsi qu'un cabas avec des poireaux. Non, mais oui, vous le savez, vous qui êtes toujours si élégante, Apolline. Il y a des fautes de goût qui ne pardonnent pas,
long. Bien sûr, c'est vital.
Et puis, Davos, Donald Trump continue de faire le show en se moquant, entre autres, d'Emmanuel Macron et en révélant certains de ses SMS. François Hollande tenait à réagir.
Oui. Et une fois n'est pas coutume, je voulais, cher Apolline Maire, monsieur Maire, apporter mon soutien à Emmanuel Macron. Parce que je sais ce que c'est que de voir des messages privés, des SMS révélés au grand jour. Et sans parler des livres qui disent qu'un président ne devrait pas dire ça, où on dévoile vos traits d'humour sur les 100 dents. Alors que... c'était pour rire, vous l'aviez compris. Donald Trump semble encore plus imprévisible et hargneux qu'une femme trompée. Et en la matière, je m'y connais.
Merci à tous. Allez, alors qu'il vient de fêter les 1 an de son second mandat à la tête des États-Unis, Donald Trump est avec nous sur RMC ce matin. Bonjour, monsieur le président.
Yeah. Bonjour, Pauline.
Hello.
Bonjour, Pauline. C'est mon anniversaire. T'as pas mis la perruque blonde et tu me chantes pas Happy birthday to you, Mr. President. Happy birthday to you.
Ça va aller, merci beaucoup. On vous a entendu donc hier à Davos, Monsieur Trump. Vous ne cachez pas que vous êtes très très fier de votre bilan. Vous allez d'ailleurs faire une conférence de presse. Vous avez montré des photos de délinquants arrêtés par votre police de l'immigration.
Oui, t'as vu ma conférence de presse?
Oui, j'ai vu.
J'ai pris mon temps pour montrer au monde entier les photos de tous les gens que j'ai arrêtés. Et j'ai encore d'autres photos des gens que j'ai arrêtés. Mmh. Alors, je les ai amenés, je prends mon temps. Avec elle, j'ai arrêté aussi. C'est Stormy Daniel.
Ah oui, on la reconnaît.
Alors, elle, c'est Svetlana. Et j'ai arrêté aussi, c'est Poutine qui me l'avait offerte.
Ah, d'accord, on va arrêter, d'accord.
Alors, elle, c'est moi qui ai arrêté. Elle voulait, mais c'est moi que j'ai arrêté.
Ah oui, elle vous a arrêté.
Parce qu'elle est mamie et je respecte les mamies.
Ah oui, vous respectez les mamies.
Et lui, je sais pas qu'est-ce que... C'est Emmanuel. Ah. C'est un chic type, Emmanuel. Mm. Mais je préfère quand même le film.
Ah, le film, Emmanuel, vous préférez plutôt que le Macron. Merci, Monsieur Trump. Pour nous aider à y voir plus clair sur la situation internationale, il fallait vraiment faire appel au meilleur expert, Vincent Moscato, avec nous.
C'est le super Moscato Show.
Oh, putain. Toi, c'est bon, c'est à moi. Ça démarre. Alors oui, je voulais parler de Trump, le gosse, il te les rend fous. Les rédacs des chaînes info, elles sont toutes en ébullition. Le Groenland. Puis t'es obligé d'envoyer en urgence des envoyés spéciaux là-bas. T'imagines les journalistes en rédaction de BFM, tu vois, les mecs, bon les gars, qui c'est qui va au Groenland? Les mecs, tu vois, ils regardent tous leur propre. Putain, plus au mois de janvier, le Groenland, tu vois, ça rigole pas. Mais il y en a un qui se régale, il y en a un qui c'est Maxime Soutek. Ouais. Maxime Soutek, putain, il se régale. Lui, plus ça pète, tête dans le monde depuis des temps. J'explique que lui, au début, BFM, tu vois, lui, il arrive, et tes journalistes normal, tu vois, il faisait des émissions sur la rentrée scolaire, sur la déjà d'hiver, sur la saison des fraises, tu vois. Le mec, tu vois, transparent, tu vois. Et puis après, il prend du galon. Le mec, oh putain, le galon qui te prend l'émission, qui porte son nom, 22h max, tu vois, avec du bleu, du orange flashy, tu vois, le boulard qui commence à gonfler. Ensuite, il fait une émission qui s'appelle Forum. Putain, il te prend le sujet qui pique le plus, il te fait monter la sauce, il te vend ça tous les soirs, une émission exceptionnelle, avec les invités exceptionnels, les anges exceptionnels, putain. Les agriculteurs, ils te vendent tout, les agriculteurs, la dermatose, le bercote sur Vésula, le budget. Tous les soirs, ils te vendent un nouveau truc exceptionnel. Le mec, c'était le shopping que le mec, le téléshopping. Et là, hier, la bascule. Sweetech, il pète une durite, putain. Sa nouvelle émission, c'est Quartier Général, putain. Avec, tu vois, avec le générique qui rompe, tu vois. Quartier Général, riposte ou soumission, 2 heures pour trouver la solution. Le gueux, il est passé de la brandy réformée pour pied plat, chef d'état-major en puis tu vois le décor, tu croyais que t'étais un booker, tu vois les lumières sombres, les filets, les trucs à l'ambiance glauque, tu vois, le sweet-tech, il a toujours un nouveau décor, quoi. C'est plus un journaliste, c'est Valérie D'Amido, le mec. À côté, le plateau de Marc Fauvel, c'est Germinal, tu vois, putain. Chez sweet-tech, tous les soirs, c'est tellement exceptionnel, tu vois, un jeu exceptionnel, un invité exceptionnel, putain, tu vois, à un moment donné, tu fatigues, tu vois. Parce que le foie gras, c'est moi, le son du journalisme, c'est quoi? C'est que le foie gras, c'est bien, mais quand on t'en sert tous les jours, t'es content d'avoir des carottes râpées.
Et merci Nicolas. Passe à Cantou que l'on retrouve donc dès demain à 8h50, mais à tout moment également sur RMC. Dans un instant, les GG. Alain est dans ce studio. Salut Alain, quel est le programme?
Bonjour Apolline, bonjour à tous. 9h midi, les grandes gueules. Vous avez vu la classe optimum de la SNCF, un voyage de haute qualité et dans les voitures. Pas d'enfants. Alors, est-ce que c'est vraiment tranquillisant, apaisant, ou est-ce que c'est navrant? C'est au 32-16 que vous en parlez avec nous.